Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 7 mai 2003, de 18 à 21h, en différé jeudi 8 mai, dans la nuit, de 2h à 5h, et dans la matinée, de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Bernard.
Dominique Vénère, bonsoir.
Bonsoir Bernard Lugan.
Philippe Conrad, bonsoir.
Bonsoir.
Une émission qui va être divisée en deux parties, à l'occasion de la parution de deux revues importantes. La première partie va être consacrée à l'Afrique, et nous allons parler des dossiers qui sont traités par le dernier numéro de l'Afrique réelle, le numéro 39, printemps 2003. Et nous passerons en seconde partie à l'actualité historique qui va tourner autour de la parution du numéro 6 mai-juin 2003 de la nouvelle revue d'histoire dirigée par Dominique Vénère. Et nous parlerons à cette occasion de la naissance du fascisme, une période bien particulière dans l'histoire de l'Italie et de l'Europe. Et nous parlerons également des divers éléments, des divers dossiers contenus dans ce numéro très riche, particulièrement bien présenté et illustré comme d'habitude. Alors, nous commençons par l'Afrique. Et nous commençons par l'actualité africaine et par les dossiers traités dans ce numéro de l'Afrique réelle, numéro 39, printemps 2003. Et je passe la parole à Philippe Conrad.
Oui, trois dossiers principaux donc abordés dans ce numéro de l'Afrique réelle.
D'abord, en ouverture, une synthèse sur le bilan économique de l'Afrique en 2002, bilan assez sombre. Ensuite, nous évoquerons l'importance du pétrole en Afrique. L'or noir, on pouvait penser que ce serait une ressource susceptible de favoriser le décollage africain. Nous verrons ce qu'il faut en penser. Et alors, dans ce numéro de l'Afrique réelle, il y a toute une partie qui est consacrée à l'histoire du Burundi, qui est tout à fait passionnante. Nous avons souvent eu l'occasion de parler à cette antenne du Rwanda, moins souvent du royaume voisin. Et en particulier dans ce numéro, il y a un remarquable cahier photo consacré à l'histoire du Burundi, des documents qui remontent pour beaucoup au début du siècle.
Et précédent.
Du siècle précédent, pardon, du 20e siècle. Et qui présente vraiment un grand intérêt parce que tout à fait originaux et très peu connus.
Oui, ce sont des clichés sur verre qui sont contenus dans les collections des Pères Blancs. Et j'ai publié tirage papier, donc ces clichés qui sont très clairs, très nets. Ce sont des photos qui ont été prises dans les années 1898, 1910, 1915, 1920, et qui présentent bien la société du Burundi à l'époque, et surtout les grands personnages de l'histoire du Burundi qui sont identifiés sur ces photos, et qui montrent bien, de par leur seule présence, leur seule prestance, comment fonctionnait la société du Burundi. C'est un dossier qui est iconographique et qui est assez riche, assez dense.
Alors nous n'aborderons pas dans le détail ce dossier consacré au Burundi aujourd'hui, nous le ferons à d'autres occasions. Nous allons surtout nous concentrer sur les problèmes économiques et puis les problèmes relatifs au pétrole. Alors en ce qui concerne la situation économique, derrière les lamentations habituelles sur l'état de l'Afrique, toujours aussi mal parti, est-ce que vous pourriez nous amener une visibilité plus précise, Bernard, de la situation économique au vu des chiffres pour 2002 qui ont été récemment publiés?
Oui, les chiffres sont très mauvais. Et les chiffres sont très mauvais, et une illustration de ce très mauvais bilan économique a été donnée par le rapport de la COFAS du début de l'année 2003. Et dans ce rapport du début de l'année 2003, 6 nouveaux pays africains sont déclassés. En d'autres termes, la COFAS déconseille aux investisseurs français de placer leur argent dans 6 nouveaux pays. Et ces 6 nouveaux pays, eh bien, ce sont les pays suivants: la Centrafrique, en proie au chaos ethnique, la Côte d'Ivoire, qui connaît une nouvelle année de récession sur arrière-plan de problèmes politico-ethniques dont nous parlerons tout à l'heure, le Gabon, dont les réserves pétrolières sont en baisse. Oui, le Gabon,
grande surprise.
Oui, le Gabon qui voit ses réserves pétrolières en baisse et qui voit sa production baisser. Madagascar, où les incertitudes politiques ne sont pas encore levées. Plus surprenant, l'Ouganda, jusque-là bon élève du FMI, mais où les tensions ethniques dans le nord du pays et dans l'ouest du pays sont en train d'être réactivées, sont toujours fortes. Et enfin, la Zambie, qui est entrée dans une période de grande incertitude. Alors cela, à la suite d'autres pays, de quasiment tous les pays africains. Alors ceci est très clair. Ceci veut dire que la COFAS déconseille désormais d'investir dans la quasi...
Et rapidement, quels sont ceux dans lesquels on peut considérer qu'il est possible aujourd'hui d'investir, les principaux d'après les autorités économiques internationales?
L'Afrique du Nord, en général. L'Algérie est en train de voir une lucarne s'ouvrir, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, et très peu d'autres pays, tout simplement parce que nous allons voir que la situation est mauvaise partout. Les quelques pays qui sont des émirats pétroliers, comme la Guinée équatoriale, nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous parlerons du pétrole, si vous le voulez bien. Alors, ce chiffre est très mauvais, et ce chiffre est très mauvais dans la mesure où, en 2001-2002, le taux moyen de croissance du continent a été de 2,7%, en baisse par rapport à 2000. En 2000, il était de 3,1%. Alors, cette baisse n'est pas significative en elle-même. Elle montre tout de même un élément important, qui est que ce taux de croissance ne monte pas. Or, tous les postulats du développement, tous les postulats qui reposent sur le NEPAD et sur les politiques de mise en valeur de l'Afrique sont des postulats qui reposent sur un chiffre de 7 à 8% de croissance annuelle et pendant une longue période, pendant des décennies. Or, nous sommes bien loin d'atteindre ces chiffres, ce qui fait que dans la logique même du libéralisme économique mondial, l'Afrique ne peut pas s'en sortir, car les chiffres sont de 50% inférieurs au moins à ce qui était postulé.
Oui, il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs NEPAD.
Oui, le nouveau, à quoi cela correspond. Alors, le NEPAD, c'est le nouveau plan de partenariat défini par les Africains entre l'Afrique et le reste du monde. Le NEPAD est en fait une tentative africaine de faire revenir en Afrique des investissements qui se sont détournés de l'Afrique. Alors, jusque-là, l'idée était de demander aux Européens de donner de l'argent à fond perdu, et disons d'une manière crue que la nouvelle idée va être de demander aux Européens d'investir à fond perdu, c'est-à-dire c'est un don déguisé. Nous avons longuement parlé du NEPAD ici il y a 3 ou 4 mois dans une émission, je ne reviens pas là-dessus, j'ai expliqué à l'époque que le NEPAD pour moi n'avait aucun avenir pour les raisons que j'ai longuement expliquées et sur lesquelles nous avons longuement débattu dans un numéro précédent de l'Afrique réelle. Alors donc, taux de croissance qui est de 50% inférieur au minimum postulé pour voir une croissance apparaître en Afrique, et de toutes les façons, un taux de croissance économique qui est inférieur au taux de croissance démographique. Parce que le taux de croissance démographique est voisin de 3%. Disons qu'il est à peu près de 3%. Or, le taux de développement de croissance économique du continent est de 2,7%. Parfois de 3%. Donc dans tous les cas, le grand écart continue. Le grand écart continue entre une démographie qui n'est pas contrôlée, même avec le sida, et un développement économique qui n'apparaît pas. Alors, ce tableau est un tableau général qu'il convient de pondérer, car toujours, lorsque l'on aborde les problèmes avec une vision planétaire, avec une vision globale ou continentale, l'on passe à côté de situations locales. Tel ou tel auditeur va nous téléphoner en disant « Oui, mais vous nous dites que, mais en revanche, la Guinée équatoriale ou tel pays ?» Oui, certes, la situation que je viens de définir est une situation globale. Alors voyons maintenant une analyse plus fine, une analyse régionale et une analyse par secteur de pays, en classant les pays qui ont une chance de s'en sortir, et j'en reviens à votre question, les pays qui stagnent et les pays qui sont condamnés à moyen terme. Alors disons qu'en 2001-2002, 10 pays représentaient à eux seuls près de 80% du produit intérieur brut de toute l'Afrique. 10 pays, et parmi ces 10 pays, 3 émergent. Il s'agit de l'Afrique du Sud, qui représente à elle seule 21% du PIB du continent, de l'Égypte, qui représente 17% du PIB du continent, et de l'Algérie, 10%. Et ces trois pays totalisent à eux trois quasiment 50% du PIB continental. Ce qui fait que les 49 autres pays doivent se partager les 50% qui restent, et ces 50% se trouvent dilués, bien entendu, dans cette immensité. Alors, certains pays ont en revanche connu une croissance considérable. Prenons un pays comme le Mozambique. Un pays comme le Mozambique a vu, en 2002, son PIB augmenter de presque 10%, 9,5, 9,6%. Mais ceci ne signifie rien.
Faut voir d'où il partait.
Car le Mozambique partait de néant. Donc partant de néant, il est bien évident que la progression paraît plus spectaculaire. Deux autres pays ont connu une croissance qui, elle, est plus solide. Parce qu'elle repose sur du tangible. Elle repose sur quelque chose qui est monnayable. C'est sur le pétrole. Alors, l'augmentation la plus intéressante est dans le pays qui est le plus fiable, alors actuellement économiquement en Afrique, qui est le nouvel Eldorado, un émirat ouest-africain, c'est la Guinée équatoriale. L'ancienne Guinée espagnole, l'ancien Rio Muni espagnol, qui était véritablement la colonie perdue africaine, c'était un monde totalement oublié. Oublié dans la connaissance mondiale. Parce que les Espagnols n'ont pas du tout abandonné leur territoire. Lorsque vous allez en Guinée équatoriale, vous êtes frappé par cette superbe architecture coloniale créée par les Espagnols. Les bâtiments espagnols sont absolument superbes. Les Espagnols ont laissé à ce petit territoire un minimum d'infrastructures de très très haut niveau. Et également des personnels formés et des personnels compétents. Et cette petite Guinée équatoriale a eu la chance de trouver en mer des gisements de pétrole tout à fait considérables, Ce qui fait que la Guinée équatoriale voit son produit intérieur brut augmenter continuellement de quasiment de 10% par an. Et l'année dernière, la Guinée équatoriale a eu son produit intérieur brut qui a augmenté de 12,5%. Donc c'est considérable. Mais c'est une exception. C'est l'arbre qui cache la forêt. Un autre pays pourrait avoir en 2003, si les événements graves ne s'y déroulent pas, et si l'exploitation de pétrole semble se confirmer d'une manière régulière, le Tchad pourrait avoir une croissance importante en 2003. Les organismes internationaux prédisent une croissance de 10% pour le Tchad qui lui également part de très loin. Mais dans les deux cas, il s'agit de pays producteurs de pétrole. À l'opposé, les pays dont la croissance est négative sont passés presque à 10. Et parmi eux, deux ont vu leur PIB reculer de près de 10%. Le Zimbabwe et le Libéria. Alors, tout ceci montre véritablement qu'il y a certes une grande disparité, mais ceci montre qu'il y a surtout une grande misère et une grande pauvreté dans les prévisions et dans les réalités économiques. Alors, je reviens aux estimations des organismes internationaux. Que l'on prenne la Banque mondiale, que l'on prenne la Banque africaine de développement, que l'on prenne le NEPAD, que l'on prenne les grands organismes de coopération, bilatéraux ou multilatéraux. Tous postulent qu'il faut une croissance de 7 à 8% minimum par an durant plusieurs décennies pour que le continent puisse commencer à sortir de la pauvreté, ou du moins puisse combler le retard qui s'accumule tous les ans. Or, ces prédictions n'aboutissent pas, car bien au contraire, depuis les indépendances jusqu'à l'année 2001, le revenu par habitant a baissé entre 0,5% et 1% par an, entre moins 0,5% et moins 1% par an. En d'autres termes, la chute est continuelle. Non pas que rien n'ait été fait, mais en raison de la démographie. La démographie avale toute possibilité de développement. La démographie est tellement importante qu'elle annihile tout projet de développement. Et ceci au moment où, dans le même temps, les populations de l'Est asiatique, les pays de l'Est asiatique, voyaient le PIB national de chacun de ces pays de l'Est asiatique progresser en moyenne de 5 à 6% par an. Alors, les pays asiatiques, d'un côté, contrôlent leur naissance, du moins freinent leur prolifération suicidaire, et en même temps augmentent leur pourcentage de développement, et l'Afrique ne gère rien du tout. La démographie africaine est toujours incontrôlée, et le niveau de vie baisse. Alors ceci est embêtant pour l'Afrique, parce que l'Afrique est de plus en plus un nain commercial. L'Afrique n'existe pas commercialement. Sauf pour ce qui est du pétrole, bien sûr. Mais le pétrole ne concerne qu'une dizaine de pays. Et dans tous les cas, le pétrole en Afrique n'a jamais généré la richesse. Prenons l'exemple des grands pays producteurs de pétrole. Eh bien, les niveaux de vie des populations y sont dramatiques. L'Algérie, sur le papier, est un pays fabuleusement riche. C'est un pays
de clochards. Ça profite à une nomenclatura parasitaire et prédatrice minoritaire.
L'Algérie est devenue un pays de clochards. assis sur des barils de pétrole.
C'est pitoyable.
Regardez l'exemple du Nigeria. Pays fabuleusement riche, potentiellement. Pays de laisser pour compte. L'Angola. Pays fabuleusement riche au point de vue pétrole.
Et pas seulement au point de vue pétrolier, en plus l'Angola, il y a d'autres
diamants,
ressources.
Les grandes ressources, le cuivre, les diamants. Du temps des Portugais, l'Angola était un des grands producteurs de café. Alors, le pétrole a profité à certains petits pays, comme le Gabon, ou bien comme le Congo, comme la Guinée équatoriale, mais ne profite pas aux populations. Ça fait que dire que le pétrole va être un facteur de développement, peut-être, espérons-le, mais les leçons du passé nous entraînent à conclure que l'avenir n'est pas garanti pour les populations. Il va y avoir bien sûr des compagnies qui vont s'enrichir, des nomenclatura locales qui vont se gaver, mais les richesses ne sont pas automatiquement attendues et la hausse du développement non plus. Alors, commercialement, l'Afrique est exclue du commerce mondial, exclue des échanges mondiaux. En effet, l'Afrique ne représente que de 2 à 2,3% de tout le commerce mondial. Et ceci est absolument dramatique. Et ce pourcentage est en partie réalisé grâce au pétrole. Alors si vous retirez la part du pétrole, que reste-t-il à l'Afrique ? Alors aujourd'hui, nous constatons que 4 pays africains sur 52, 4 pays africains sur 52, ces 4 pays qui sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie et la Libye, vous noterez 3 pays pétroliers, Nigeria, Algérie et Libye. Donc ces 4 pays totalisent à eux seuls plus de 25% de tout le commerce africain. En d'autres termes, les 75 autres pourcents sont réalisés par les 48 pays africains qui restent. Alors si vous enlevez le Maroc, l'Égypte et les 2 ou 3 pays à peu près locomotives en Afrique, il ne reste, et la Tunisie bien sûr, il ne reste rien aux autres pays, et dans tous les cas, rien à l'Afrique noire. Et pour vous donner une idée de la place que tient l'Afrique dans le monde, prenons la situation dans le classement mondial de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le leader africain. L'Afrique du Sud est le pays africain qui a le plus gros niveau de vie, PIB, place commerciale, etc. Eh bien, l'Afrique du Sud, qui est le leader africain, n'est que le 38e pays mondial pour les exportations et que le 40e pour les importations. Ce qui fait que, à l'échelle mondiale, l'Afrique du Sud n'existe pas. C'est un pays qui est absent. L'Afrique du Sud demain pourrait être noyée sous les eaux et que le commerce mondial n'en serait pas affecté. Et l'Afrique en général subirait le même sort dramatique. Eh bien, le monde ne s'en rendrait pas compte économiquement. Ceci est très grave. Et ceci est encore plus grave dans la mesure où il y a un manque de confiance de la part des investisseurs internationaux. La crise africaine est là, certes, mais on pourrait se dire, cette crise africaine est là parce qu'il y a telle ou telle cause dont nous avons maintes fois parlé, mais il est possible de développer l'Afrique si les investisseurs viennent placer des capitaux en Afrique. Eh bien, non. Non, parce que l'étude a été parfaitement faite des IED. Alors, que sont les IED ? Ce sont les investissements étrangers directs. Eh bien, nous constatons que depuis 1970, la part de l'Afrique dans les investissements étrangers directs mondiaux, c'est-à-dire la part de l'Afrique dans la totalité des placements faits par ceux qui placent. Bien, nous constatons que l'Afrique a vu sa part divisée par 3. L'Afrique, en 1970, recevait 6% des investissements étrangers directs mondiaux, ce qui était ridiculement faible. Aujourd'hui, l'Afrique n'en reçoit plus que 2%. Alors le plus grave, c'est que il y a eu une décennie d'euphorie économique. Cette décennie d'euphorie économique a été la décennie des années 1990. Et durant cette décennie des années 90, les IED, les investissements étrangers directs mondiaux, ont explosé sur l'ensemble de la planète. Et en l'an 2000, sur les 1500 milliards de dollars, d'IED, l'Afrique n'a recueilli que 9 milliards. En 2001, le chiffre est monté. Il est monté à 17 milliards. Et l'on s'est dit qu'il y avait une embellie, 17 milliards. Mais une embellie totalement artificielle. Une embellie qui a été due aux achats des parts de la société minière De Beers par Anglo-American et de l'achat par Vivendi Universal de 35% des parts de Maroc Telecom. Ce sont donc deux interventions totalement artificielles qui, en aucun cas, n'expliqueraient une envolée économique du continent. D'ailleurs, dès 2002, les IED africains sont retombés à moins de 6 milliards de dollars. Ce qui fait que l'Afrique n'intéresse pas les investisseurs, sauf certains secteurs pétroliers, car ces 6 milliards d'investissements d'IED sont quasiment tous concentrés sur de l'exploitation pétrolière et essentiellement sur le pétrole offshore, pétrole en mer. Alors je l'explique encore aux esprits ronchons qui m'écrivent dès que je prononce un mot en anglais, que le terme que l'on emploie, le terme offshore ou onshore, effectivement, l'on pourrait dire le pétrole hauturier ou le pétrole à l'intérieur des terres. Le terme international généralement utilisé est celui-là. Je continuerai à l'utiliser. Inutile de m'abreuver de lettres. J'ai autre chose à faire qu'à lire de ces lettres de ronchons. Chaque fois que j'emploie un terme anglais, je pense m'exprimer relativement bien en français et défendre suffisamment la langue française pour pouvoir de temps en temps employer des termes anglais qui sont des termes internationaux. Ou alors autrement, replions-nous sur notre langue et n'ayons plus aucun contact avec l'étranger, ne voyageons plus, ne lisons plus de livres en anglais et restons totalement enfermés. Bon, alors, donc, cette réalité étant là, la situation est donc grave. Non, là, j'attends 15 messages là-dessus. 15 messages. Bon, donc, la réponse est faite. Donc, le problème est tout à fait grave, est tout à fait grave pour l'Afrique, parce que, ou alors je parlerai en latin la prochaine fois, ça je pourrais le faire aussi, ce serait pas mal. Tiens, Dominique, on peut en faire une émission en latin, ça pourrait être intéressant. Je pense que tous les trois ici sommes capables de faire une émission en latin. Alors donc,
vous lirez les messages en latin.
Oui, nous répondrons, nous verrons. Alors, nous viendrons avec nos vieux gaffiots. Donc, la situation est dramatique. Elle est dramatique parce que dans le contexte général est mauvais, et en plus du contexte général qui est très mauvais, la confiance dans l'Afrique a disparu chez ceux qui pourraient investir en Afrique et qui ne sont pas des suicidaires, qui ne sont pas des masochistes, qui savent que le continent est dans une telle situation qu'il ne vaut pas la peine de risquer de l'argent et il ne vaut pas la peine de tenter le diable en allant investir ici ou là. Mais il y a encore une autre cause qui vient s'ajouter à cela. Il y a encore un élément de gravité qui vient s'ajouter à cela. C'est que l'Afrique est entrée à nouveau dans une phase de crise vivrière. Alors cette année, la situation est moins dramatique parce que l'hivernage a été bon dans les régions du Sahel et surtout parce qu'en Afrique du Nord, les pluies ont été abondantes et cette année, nous allons voir le PIB du Maroc, par exemple, qui va normalement exploser, qui va monter parce qu'il a bien plu. La récolte va être tout à fait excellente et ceci confirme ce que disait le maréchal Lyoté. Au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. Les pluies sont bonnes, tout va bien. Les pluies ne sont pas bonnes, des émeutes ont lieu. Et quand vous voyez le PIB d'un pays comme le Maroc, un PIB qui est en dents de scie, quand la courbe est montante, c'est que les pluies ont été bonnes, et quand la courbe est descendante, c'est que les pluies ont été mauvaises. Donc, cette année, dans le Sahel, et dans une partie du Sahel, parce que maintenant, la récolte qui s'annonce dans le Sahel va être mauvaise, notamment pour les arachides, mais l'année sur laquelle nous parlons, qui est l'année 2000, a été bonne, et en Afrique australe, en Afrique de l'Est, très mauvaise. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui en Afrique avec une baisse des récoltes céréalières. À l'heure actuelle, j'étais au Sénégal il n'y a pas bien longtemps. J'étais dans toute cette région Sénégal, Gambie, Mali, etc. Et ce qui arrive va être très grave. Parce que là encore, nous sommes face à un gros problème de crise en raison des pluies qui n'ont pas été bonnes. Et selon les estimations, l'on considère qu'aujourd'hui, environ 30 millions d'Africains sont sous perfusion alimentaire. 30 millions d'Africains qui ne vivent que grâce à l'aide économique, à l'aide alimentaire. La Banque mondiale, dans son rapport du mois de décembre 2002, indiquait que 30 millions de personnes ont eu besoin d'une aide alimentaire en 2002. Et cette aide alimentaire était une aide alimentaire au début du processus de grande crise alimentaire qui va toucher l'Afrique australe et une partie de l'Afrique centro-orientale. Tout cela pour dire donc que le bilan économique africain est très mauvais. Et ce bilan économique africain montre bien que tous les paris qui ont été faits concernant le développement sont des paris qui ont échoué.
Alors, effectivement, l'une des raisons qui permettait d'espérer une conjoncture plus favorable, c'est le pétrole.
Oui, alors nous en avons parlé du pétrole.
Le pétrole, puisque ça représente actuellement à peu près 12% de la production mondiale, c'est un pétrole qu'on a découvert au cours des dernières décennies. Faut-il rappeler que le pétrole algérien ou libyen, c'est seulement les années 50-60, et le pétrole nigérian est un peu plus ancien, mais dans le reste du Golfe, c'est au cours des 30 dernières années que l'on a fait les découvertes importantes. Alors, quels sont les risques que représente l'issue de l'opération irakienne pour le pétrole africain, qui est un pétrole offshore, donc avec des conditions de production plus coûteuses? Est-ce que le pétrole irakien, qui dans les conditions d'extraction sont les plus intéressantes au monde, arrivant sur le marché sous le contrôle désormais des vainqueurs de Saddam Hussein, est-ce que cela ne va pas bouleverser quelque peu le marché du pétrole au détriment justement d'un pétrole africain dont les conditions de production sont plus onéreuses?
Oui et non. Disons tout de suite qu'en 10 ans, la production africaine de pétrole a augmenté de 40%, mm-hmm. alors que dans les autres secteurs mondiaux, géographiques, elle n'a augmenté que de 20%. Ceci étant dit, il faut être très prudent lorsque l'on parle du pétrole. Il faut être prudent comme lorsque l'on parle de la bourse. Et les spécialistes eux-mêmes ne s'y retrouvent pas. Alors nous qui ne sommes pas spécialistes avons encore plus de mal à nous y retrouver. Et lorsque vous prenez les analyses qui ont été faites il y a un mois et demi, c'est-à-dire en plein moment de la crise irakienne, analyses qui ont été faites au moment où les cours de pétrole flambaient. Et lorsque vous prenez les analyses qui sont faites aujourd'hui, alors que les cours de pétrole sont en train de s'effondrer, bien, vous avez une contradiction complète entre les deux analyses. Il y a un mois et demi, on nous disait que l'Afrique allait devenir un continent convoité pour son pétrole, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on dit que finalement, l'extraction directe dans des zones comme l'Irak pose moins de problèmes. Il est bien évident. Si l'on examine la situation froidement, sans aucun sentiment, comme le ferait un pétrolier américain, c'est-à-dire les yeux fixés sur la liasse de billets de dollars et les autres sur les cours du baril à la bourse. Il est bien certain qu'il vaut mieux pour les Américains contrôler l'Irak et retirer un pétrole facile à retirer, quasiment inépuisable, pour lequel existent des terminaux et pour lequel existent toutes les infrastructures de chargement sur les navires, que d'aller s'embêter à créer une présence en Afrique avec tous les aléas politiques, climatiques, ethniques, sanitaires, et qui peuvent se poser. Il est bien évident que la balance penche en faveur de l'Irak. Mais, à contrario, il est bien évident que le pétrole de l'Irak ou le pétrole du Moyen-Orient peuvent être des gisements menacés par des environnements géopolitiques qui peuvent être lourds comme tendance. Il est bien évident qu'une guerre ethnique en Afrique est une tendance légère. Une guerre ethnique en Afrique peut être facilement contrôlée si on y met le paquet. Ce n'est pas la peine d'envoyer des troupes comme en Irak pour contrôler une guerre ethnique en Afrique.
Même au Nigeria.
Attendez, je termine mon raisonnement. En Côte d'Ivoire, avec 4000 hommes, la France tient la situation en main. Et la France donnerait l'ordre à ces 4000 hommes de régler le problème. Le problème serait réglé dans les 8 jours. Peut-être pas définitivement, mais l'ordre serait rétabli dans les 8 jours. Ce qui fait que ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en Afrique, les investissements humains militaires seront toujours secondaires par rapport aux investissements militaires nécessaires dans les grandes zones pétrolières. Il n'y a pas l'environnement hostile menaçant avec ces tendances lourdes comme en Afrique. En revanche, il y a en Afrique une addition de causes multiples qui viennent compliquer le problème de l'extraction du pétrole. Alors, ces problèmes sont lesquels? Ils sont le résultat de cet émiettement politique et de ces réalités ethnico-tribales qui font que, partout en Afrique, tout peut être remis en cause du jour au lendemain. Et les investisseurs même dans les domaines pétroliers, sont très réticents. Parce que pourquoi investir des sommes considérables dans des zones qui, demain, peuvent connaître des embrasements locaux? Il faudrait, en d'autres termes, quasiment recoloniser l'Afrique pour être certain de pouvoir retirer un pétrole payant les investissements et relativement rentable pour les compagnies. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le pétrole facile à extraire et le pétrole difficile à extraire. Le pétrole facile à extraire, qui coûte cher, qui techniquement pose des problèmes, mais qui politiquement ne pose pas de problème, c'est le pétrole offshore, c'est-à-dire le pétrole en mer. Ce pétrole offshore présente deux catégories différentes. Soit de l'offshore moyen, c'est-à-dire à profondeur moyenne, soit ce qu'on appelle de l'offshore profond, c'est-à-dire au-delà de 600, 700, 800 mètres. Nous possédons les techniques, nous maîtrisons les techniques, mais ces techniques coûtent cher. Donc, d'un côté, un coût élevé, mais de l'autre côté, une sécurité. Car les luttes tribales n'auront pas lieu à 300 km en mer. 300 km en mer, avec des plateformes, il suffit d'avoir quelques bonnes unités de commando marine, quelques bons navires, 2-3 hélicoptères, et ces extractions seront parfaitement préservées. Les pétroliers se moquent de ce qui peut se passer sur le continent. Que les populations s'égorgent, se massacrent, que les épidémies emportent des centaines de milliers de personnes, peu importe. L'exploitation pétrolière se fera et cyniquement, les compagnies de pétrole n'auront qu'à acheter 2 ou 3 dirigeants sur le continent et feront leurs petites concessions totalement protégées de l'environnement. Deuxième cas de figure, le pétrole sur terre. Le pétrole sur terre, le pétrole onshore, qui est un pétrole qui coûte beaucoup moins cher à exploiter, mais qui est soumis aux aléas. C'est ce que nous voyons à l'heure actuelle au Nigeria. Car au Nigeria, quelles sont les plateformes qui ont été stoppées dans leur production? Ce ne sont pas les plateformes qui sont en mer, ce sont les plateformes qui sont dans les marécages du delta du Niger, qui sont en terre, ou en limite lagunaire. Et alors là, évidemment, le problème se pose, parce que les compagnies doivent, si elles veulent exploiter, acheter la tranquillité de l'exploitation. Mais nous sommes en Afrique. Ce qui est acheté aujourd'hui sera à réacheter demain ou après-demain. Et telle ethnie aura été achetée, mais l'ethnie d'à côté ne sera pas d'accord. Donc le pétrole territorial, continental, onshore, pose un problème. Il coûte moins cher, il est plus facile à extraire, mais il y a des possibilités de problèmes politiques. Voilà les deux termes de l'équation de pétrolière en Afrique. D'un côté, un pétrole cher que l'on extrait facilement. De l'autre côté, un pétrole peu cher, mais qui pose des problèmes. Alors, dans un contexte d'effondrement des cours du pétrole, comme aujourd'hui, la question se pose, comme vous l'avez posé, est-il intéressant d'exploiter le pétrole africain? Le pétrole africain ne va-t-il pas coûter trop cher par rapport aux cours mondiaux? Alors, c'est pour cela qu'il faut être très prudent, parce que ces cours vont et viennent. Alors, dans la phase actuelle, si les cours du baril continuent à s'effondrer, continuent à baisser, il est bien certain qu'économiquement, l'exploitation du pétrole africain, au simple terme et au seul terme économique, je ne parle pas au terme géopolitique, deviendra peu rentable ou moins rentable. Mais si les cours du pétrole remontent, à ce moment-là, ces cours et ces réalités deviendront plus intéressantes. Se pose un autre problème, qui est le problème des diversifications des sources de production et de l'indépendance pétrolière. Alors, nous, Français, avons bien entendu intérêt à être présents en Afrique, dans le domaine pétrolier. Et nous avons intérêt, de plus en plus, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer au Moyen-Orient. Il est bien évident que si l'impérialisme pétrolier américain n'est pas remis en cause, et si les Américains arrivent à contrôler la situation en Irak, ils vont essayer d'être dans une position monopolistique. Ce qui fait que nous allons nous retrouver, nous, Français, et nous, Européens, plus généralement, face à un problème. Alors, quelles seraient les sources d'approvisionnement qui pourraient être les nôtres? Alors, bien sûr, il y a les sources d'approvisionnement russes. L'immense réservoir pétrolier russe. Il y a l'Afrique du Nord. D'où le partenariat important que nous avons avec l'Algérie à l'heure actuelle. D'où les liens à la faveur des événements d'Irak. Et nous avons assisté à un réchauffement des relations entre la France, l'Algérie et la Libye. Nous avons tout intérêt à avoir ce partenariat avec la Libye, avec l'Algérie. Et puis il y a cette part du pétrole de l'Afrique noire qui n'est pas considérable, mais qui représente un certain nombre de points de pourcentage dans les approvisionnements. Les Américains voudraient que le pétrole africain entre d'ici quelques années pour 15 à 20% dans leur approvisionnement. Pour les Américains, le golfe de Guinée est tout à fait accessible. Ben c'est la porte d'en face. C'est la rive d'en face de la Méditerranée, de l'Atlantique. Et il y a donc, nous raisonnons, avec notre esprit européen et français, en voyant ce golfe de Guinée situé au bout du monde. Pour l'Amérique, non, c'est la rive d'en face. La distance entre la côte est américaine et la côte ouest américaine est à peu de choses près la distance qui existe entre la côte africaine et la côte ouest et la côte est américaine. Ce qui fait que dans cette optique, à peu de choses près, dans cette optique continentale, il est bien évident que la géostratégie et la géopolitique est bien différente. Mais évidemment, nous Français sommes tellement obnubilés par notre nombrilisme, déjà linguistique, on en parlait tout à l'heure, nous ne pourrons pas voir ce genre de choses. Et cette données échappent totalement. Il faut avoir une vision planétaire, continentale et géopolitique pour comprendre cela. Et si l'on ne comprend pas cela, eh bien, les problèmes vont se poser avec les Américains en Afrique. Il est bien évident que les Américains nous abandonneront toujours les zones difficiles continentales d'exploitation du pétrole. Ils n'ont aucun intérêt à se lancer dans des investissements lourds dans des zones continentales, loin des zones d'exportation maritime, etc. Mais la grande rivalité se situe dans le pétrole, dans les zones de pétrole atlantique. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé avec l'affaire Elf est totalement lamentable, parce que je le dis souvent, je vais choquer du monde. À la limite, que nous importe que certains se soient remplis les poches dans cette affaire, si l'intérêt supérieur de l'État a été sauvegardé, si l'intérêt de l'indépendance pétrolière de la France a été sauvegardée. N'oublions tout de même pas que ces gens qui se sont, entre guillemets, ou soi-disant remplis les poches, ont tout de même permis à la France d'être le partenaire numéro un du pétrole dans toute l'Afrique occidentale. La France a été le premier partenaire, le premier intervenant pétrolier, grâce à ce qui a été fait depuis la politique définie par le général de Gaulle jusqu'au président Giscard d'Estaing, et également sous le président Mitterrand, ce rôle qui a été fait notamment par la compagnie Elf. Alors bien sûr, il y a sûrement eu de l'argent qui s'est perdu, qui s'est volatilisé, etc. Mais l'intérêt national, où se situe-t-il? Dans le moralisme le plus total, en disant maintenant nous avons les mains tellement blanches que nous nous coupons les mains pour être sûr de ne plus nous les salir, et nous laissons le pétrole aux Américains. Et nous laissons les Américains prendre le monopole du pétrole. Parce que le résultat de ces campagnes, c'est que la Guinée équatoriale, qui aurait dû être une zone d'exploitation totalement française, est une zone d'exploitation américaine. Et qu'aujourd'hui, nous n'exploitons plus en Afrique que des zones qui sont des zones en déclin, sauf 2-3 gisements d'Angola sur lesquels nous sommes très bien placés, mais il est bien évident que les Américains vont nous les disputer, ces zones. Alors, la morale ne fait pas bonne affaire avec la politique, et la morale ne fait pas bonne affaire avec le pétrole. Et c'est cela qui est important également pour notre intérêt national et pour la place du pétrole en Afrique. Alors, le pétrole, pour en terminer, peut-il développer l'Afrique? J'ai dit tout à l'heure que j'en doutais. Le pétrole peut développer certains secteurs, mais si nous nous basons sur les expériences passées, eh bien nous constatons que le pétrole n'a en aucun cas permis le développement des pays producteurs.
Alors la question évidemment qui est souvent posée, c'est la liaison établie entre le développement économique de l'Afrique et puis l'amélioration de sa situation générale. Est-ce que la solution des problèmes africains réside dans la croissance économique, dans le décollage économique? Je crois que vous avez à ce sujet un point de vue assez original.
Oui, Dominique Venner, je crois que vous êtes particulièrement prenant dans cette question pour une une raison bien simple, c'est que la nouvelle revue d'histoire, le numéro qui est paru il y a 3 jours, aborde ce problème, n'est-ce pas ?
Oui, parfaitement. Nous l'avons posé sous forme de questions auxquelles vous participez, Bernard Lugan. C'est-à-dire que, à la suite de la publication de votre livre « God Bless Africa »,
Le titre du livre et le titre complet du livre, c'est un titre qui est un titre en français, qui est contre la mort programmée du continent noir, avec un surtitre God Bless Africa.
Voilà. Précision.
Non, oui, précision. J'ai reçu 3 lettres d'insultes qui sont passées à la poubelle immédiatement. Donc, monsieur, vous avez écrit un livre en anglais. Non, j'ai écrit un livre en français qui a un titre français avec un surtitre anglais.
Avec un surtitre anglais.
Mais j'ai la chance de pouvoir publier en anglais, moi. Et mon livre est traduit en anglais, en russe, en portugais, en espagnol, en allemand, en hindou, et demain en japonais également, ce qui fait que, évidemment, on peut également continuer à faire la guerre avec un lance-pierre, et continuer à rouler avec des vélos à roues de bois pleines. Enfin, on peut également aussi se retrancher dans sa tour d'ivoire et ignorer que le monde existe. Alors, je ne réponds pas aux questions sur la langue, Victoria, c'est une perte de temps, poubelle.
Non, c'est pas une question. C'est pas une question, c'est un regret.
Un regret, oui. Bon, revenons au cœur du problème. Oui.
Revenons à la fois à ce livre et à l'écho que nous en avons donné dans la nouvelle revue d'histoire. Bon, il me semblait important de présenter évidemment le livre, l'ensemble des thèses de ce livre sont connues en partie par les auditeurs de Radio Courtoisie, bien entendu, mais c'est un livre qui, tout à la fois, fait une critique extrêmement charpentée de toutes les désinformations courantes concernant le passé africain et concernant les raisons pour lesquelles l'Afrique se trouverait ou se trouve en état de sous-développement et en état de chaos à la fois économique et politique. Sur toutes ces questions-là, Bernard Lugan répond de façon extrêmement précise. Mais il ne se contente pas d'apporter toutes les explications souhaitables. Il propose. Et son livre, dans la deuxième partie, contient des propositions sur l'avenir de l'Afrique. Et sur ces deux questions, à la fois l'analyse des raisons pour lesquelles l'Afrique connaît ce chaos et les propositions pour sortir de ce chaos, nous avons pensé qu'il était intéressant d'ouvrir un débat. Alors, le débat est ouvert par une prise de position de Bernard Lugan qui est extrêmement synthétique et qui rassemble les positions qui sont les siennes et qui sont longuement développées dans son livre. Et nous avons voulu, pour ouvrir le débat, donner la parole à quelqu'un qui est un bon connaisseur de l'Afrique, mais qui peut avoir des positions différentes de celles de Bernard Lugan. Il s'agit du professeur Bernard Debré. Pourquoi ? Eh bien, parce que le professeur Bernard Debré, chacun le sait, a été ministre de la coopération de la France dans le gouvernement Balladur en 1994-95. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, qui l'a arpenté tout jeune comme médecin dans le cadre de missions humanitaires. Il est toujours intéressé par l'Afrique. Donc nous avons voulu lui demander quelle était sa propre position. Nous lui avons demandé de réagir donc sur le livre de Bernard Lugan et sur les propositions de Bernard Lugan. Et alors on s'aperçoit, je ne vais pas déflorer le débat, chacun pourra s'y reporter, on s'aperçoit en substance que l'un et l'autre partagent un certain nombre de positions, notamment en ce qui concerne les causes du chaos. En revanche, ils ont certainement des positions différentes en ce qui concerne les solutions. Voilà. Oui. C'est donc un débat que nous avons ouvert entre Bernard Lugan, le spécialiste africaniste que l'on connaît, et une personnalité politique qui a une bonne connaissance de l'Afrique et qui a une position ouverte.
Oui, alors donc, ce qui rejoint tout à fait la question que me posait Philippe Conrad tout à l'heure. Philippe Conrad me posait la question en me disant, alors les solutions à cette situation africaine sont-elles économiques? Et justement, dans ce débat, dans la nouvelle revue d'histoire, dans ce débat que nous avons avec le professeur Debré, ce cœur du problème est abordé, parce que pour moi, les solutions ne sont pas économiques. Et pourquoi l'Afrique se trouve-t-elle dans cette situation dramatique qui est la sienne aujourd'hui? Tout simplement parce que depuis 40 ans, l'économique d'abord a été la doctrine du développement. Alors n'oublions pas une chose, c'est que le général de Gaulle, lorsqu'il a donné l'indépendance, lorsqu'il a octroyé, rendu, accordé l'indépendance aux pays d'Afrique, le général de Gaulle n'a jamais parlé de développement. Le général de Gaulle a parlé de coopération. Ce sont deux notions totalement différentes, la coopération et le développement. Parce que coopérer, cela veut dire aider, tendre la main, participer à des choses, mais sans rien imposer. Car lorsque l'on parle de développement, le développement se fait toujours par rapport à un modèle. Alors quel était le modèle de développement que nous pouvions appliquer à l'Afrique? Notre modèle démocratico-libéral économique. À l'époque, il y avait également le modèle soviétique. Nous voyons que dans les deux cas, l'échec a été total en Afrique. Et ce que je dis dans ce débat avec le professeur Debré, c'est que le professeur Debré, qui est un éminent spécialiste de la médecine, etc., voit les problèmes africains à travers, et c'est tout à fait normal, à travers son approche, qui est son approche de grand médecin humanitaire. Et lui pense que le social est prioritaire. Je ne pense pas du tout que le social soit prioritaire. Ni l'économique, ni le social. L'économique et le social sont secondaires. Et si nous continuons à soigner l'économique et le social, eh bien, nous allons entretenir l'Afrique dans son problème, dans ces problèmes dramatiques. Alors, quels sont les grands problèmes de l'Afrique? Ce sont des problèmes politiques. Nous sommes, à l'évidence, en présence d'un cas de politique d'abord. Un cas de politique d'abord, et non pas en face d'une réalité économique. Ce cas de politique d'abord est le suivant. Les pays africains de l'Afrique noire sont des pays artificiels, qui résultent, dans la quasi-totalité des cas, pas dans la totalité, mais dans la quasi-totalité, des découpages coloniaux. Découpages coloniaux qui étaient des commodités administratives ou géographiques coloniales, qui sont dans la plupart des cas des prisons de peuples, qui forcent à vivre ensemble des peuples qui sont à des niveaux culturels différents, qui n'ont pas de passé commun, qui sont antagonistes, ou qui séparent des peuples parents par des frontières artificielles, et en plus linguistiques plaquées sur l'Afrique, anglais, français, portugais et autres. Or, dans ces pays africains, il n'y a eu à aucun moment transformation de ces États en nations. Le postulat, dans les années 60-70, était de dire « aidons au développement de l'institution étatique et le fait national en découlera ». En d'autres termes, faisons comme nous avons fait en France avec le jacobinisme et la République, cassons les provincialismes, et nous allons voir un État-nation qui va apparaître. Et nous allons voir les États-nations qui vont apparaître. Eh bien, le phénomène ne s'est pas produit en Afrique. Parce que peut-être aurait-il pu se produire au bout d'un certain nombre de décennies ou de siècles. Mais la réforme démocratique qui a été introduite après le discours de la Baule, après 1990, a tout perturbé. Je ne dis pas que ce qui se passait auparavant avec l'État de parti unique était un facteur coagulant qui allait permettre le développement d'États-nations. Mais dans tous les cas, au moins, existait un certain ordre politique profondément injuste, profondément arbitraire, mais qui existait, et un semblant, une coquille d'État existait. À partir du moment où la démocratie est imposée à l'Afrique, ce n'est pas n'importe quelle démocratie qui est imposée à l'Afrique, c'est la démocratie selon nos principes. Le principe d'un homme, une voix. One man, one vote, comme disent les anglo-saxons. Donc un homme, une voix. Donc une démocratie individuelle. Or, l'Afrique est un continent qui ignore l'individu. Les points d'ancrage sont communautaires, familiaux, claniques, tribaux, etc., ethniques. Ce qui fait que le résultat de la démocratie en Afrique, C'est le sondage ethnico-tribal, grandeur nature. Et automatiquement, les peuples dont les femmes ont les ventres les plus féconds vont remporter les élections. Et nous sommes là face à une des causes pour lesquelles la démographie africaine est incontrôlable. Alors on nous parle de contrôle des naissants, mais tout ça sont des billevesées. Quel est le peuple africain qui va accepter de limiter ses propres naissances et ce faisant se mettant en position d'infériorité par rapport au peuple voisin qui, lui, continuera à avoir des naissances importantes et qui va l'emporter par les élections? Il faut avoir une vision totalement européenne pour penser à cela, Dominique Venner.
Oui, alors sur ce point, il y a donc discussion et débat avec le professeur Debray. Nous n'allons pas déflorer le sujet. D'abord, le professeur Debray n'est pas présent à l'antenne, donc on ne peut pas animer le débat ici. En revanche, les auditeurs pourront se reporter à ces deux positions. En substance, le professeur Debray dit « Oui, les États, aussi artificiels soient-ils, sont devenus des nations. » Alors, encore une fois, ne prolongeons pas le débat, puisqu'il n'est pas présent à l'antenne, mais c'était intéressant, je crois, d'ouvrir cette grande question, ce grand sujet, entre deux connaisseurs différents.
Oui, et si vous voulez, l'un qui met en avant le social, j'allais dire presque pas l'humanitaire, parce que ce n'est pas ce que fait professeur Debray, mais plutôt le social, et moi qui je pense que la priorité, c'est la réorganisation politique. Et tout découlera d'une réorganisation. Alors, bon, je n'entre pas dans le détail non plus, je l'explique longuement dans mon livre « Contre la mort programmée du continent noir » dans « God Bless Africa », j'explique longuement mes propositions. Comment il est possible de réorganiser les sociétés africaines si l'on veut garder les cadres étatiques actuels. Il est évident qu'il faut faire la différence entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable. Il serait souhaitable de remettre en cause les frontières de l'Afrique, mais il n'est pas possible de le faire. Donc, puisqu'il n'est pas possible de le faire, essayons de réorganiser le continent à l'intérieur des cadres qui nous sont imposés, en essayant d'éviter la prolongation de ces crises qui n'en finissent plus.
Mais là, vous faites justement des propositions dans votre livre.
Et je fais des propositions qui seraient des propositions de changement des définitions démocratiques. Je propose une démocratie non individuelle, non basée sur un homme, une voix, mais basée sur les groupes, de façon à garantir aux groupes non dominants, non majoritaires, un moyen d'accès au pouvoir. Mais c'est une utopie. C'est très largement une utopie, car les groupes les plus nombreux, qui savent que grâce à la démocratie, ils ont le pouvoir pour l'éternité, ne sont tout de même pas masochistes. Ils ne vont pas, premièrement, contrôler leur naissance, et deuxièmement, accepter que les peuples qui sont minoritaires aient accès au pouvoir. Ils vont au contraire être les plus grands démocrates et les plus grands partisans du principe « un homme, une voix ». Puisqu'ils sont majoritaires du camp, alors une démocratie pour les Africains au rabais et une démocratie pour les Européens, mais ceci c'est du racisme. Alors que les peuples qui sont minoritaires sont placés devant un choix très simple, où ils deviennent les esclaves. Car ils n'auront jamais accès au pouvoir, car il n'y a pas de partage des responsabilités ni partage du pouvoir en Afrique, soit ils prennent les armes et ils s'imposent militairement. Et ils créent des dictatures militaires. Donc nous n'en sortirons pas. C'est pour cela que je dis que la situation est politique et que la solution est politique. Politique d'abord. L'économie, comme disait le grand Maurras, politique d'abord. Et nous sommes là, à l'évidence, face à une réalité de politique d'abord. Et on refuse de voir cela.
Oui. Alors oui, on peut d'ailleurs, pour conclure sur ce point, faire un petit peu un catalogue rapide de tous les points sensibles, de tous les points chauds qu'on a un petit peu oubliés ces derniers temps parce que le projecteur était fixé sur l'Irak. Mais quels sont les... On peut faire un rapide survol des pays d'Afrique qui sont actuellement dans des situations particulièrement conflictuelles, difficiles.
Oui, nous l'expliquons bien dans le numéro de l'Afrique réelle. l'actualité irakienne a totalement occulté ce qui s'est passé en Afrique depuis un mois et demi ou deux mois. Or, il se passe des événements considérables en Afrique. Des événements, mais tout à fait considérables. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, quand l'actualité proche-orientale, ou moyen-orientale, ou l'actualité de la région du Golfe aura un petit peu disparu, ou se sera estompée, eh bien, l'Afrique va nous éclater au grand jour, va éclater au visage, et avec une plus grande force encore qu'auparavant, parce que, comme pendant deux mois on n'a plus parlé de l'Afrique, eh bien les événements africains qui vont apparaître vont nous apparaître totalement sortis des réalités et du domaine de la mesure. Alors bien sûr, coup d'État en République centrafricaine, guerre ethnique qui n'en finit pas au Libéria, avec contagion sur la Côte d'Ivoire, avec possibilité d'une contagion à nouveau en Sierra Leone, incursion en Côte d'Ivoire des diverses factions libériennes, les unes soutenant le gouvernement de M. Gbagbo, les autres soutenant les rebelles, guerre en Côte d'Ivoire qui n'a cessé à aucun moment, parce que si la frontière entre les rebelles du Nord et les gouvernementaux est à peu près hermétique grâce au cordon installé par les troupes françaises, mais l'on se bat énormément dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. L'on se bat dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire parce que ce sont les conflits du Libéria, pardon, qui ont été exportés en Côte d'Ivoire. Et nous voyons un phénomène tout à fait étonnant qui se déroule depuis quelques jours, mais ça, j'en avais déjà parlé il y a un mois, ce sont les rebelles du Nord qui interviennent dans l'ouest du Libéria pour essayer de mettre à la raison les ethnies de l'ouest de la Côte d'Ivoire soutenues par les ethnies de l'est du Libéria. Donc nous avons une guerre dans la guerre qui est en train de se dérouler. Et dans cette guerre dans la guerre, nous voyons que des chefs de guerre libériens et sierra-léonais ont trouvé la mort. Donc des combats très importants. Nous voyons bien que cette guerre est devenue une guerre régionale. Ce n'est plus une guerre qui est limitée à la Côte d'Ivoire. C'est une guerre qui embrasse trois pays et qui, à Dieu ne plaise, risque d'un moment à l'autre d'embraser un autre pays qui est la Guinée. Car la Guinée est dans une phase très délicate avec un président, le président Lansana Conté, le général, qui est très malade, qui est retourné dans son village et le pays n'est plus gouverné. Or, le président Lansana Conté appartient à l'une des trois ethnies principales de la Guinée, mais il est le représentant de la plus petite de ces trois ethnies, c'est l'ethnie des Soso. Et les Peuls et les Malinqués attendent. Et qui, des Peuls ou des Malinqués, va tenter de prendre le pouvoir après la mort du président Lansana Conté? Tout peut arriver en Guinée. Et si la Guinée bascule, eh bien la contagion libéro-ivoirienne va véritablement franchir une étape. Et nous sommes là, effectivement, dans une phase, peut-être, de déstabilisation de toute cette partie de l'Ouest africain, avec, bien entendu, les problèmes du Nigeria. Car les élections du Nigeria n'ont rien réglé au problème Nord-Sud. Mais nous reviendrons sur le Nigeria.
Élections très discutées.
Oui, mais comme toujours. Et problèmes économiques qui sont posés pour les pays enclavés, des pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Niger, qui voient tous leurs accès à la mer qui sont à l'heure actuelle coupés. Le seul accès qui demeure sûr, c'est l'accès par le Sénégal.
Et bon, c'est un accès qui est fait loin pour certains.
Oui, qui est tout de même pas. Il y a l'accès par le Ghana aussi, mais ce sont des accès qui ne sont pas simples. Il y a énormément de responsables économiques français qui se sont déplacés de Côte d'Ivoire au Ghana ou au Sénégal. Problème dans le Sud-Soudan où la guerre a repris avec encore plus de force qu'auparavant. Problème en RDC, l'ancien Congo Zaïre, où l'on se bat dans tout l'Est. Problème au Zimbabwe, où la succession du président Mugabe est posée. Problème au Burundi, où normalement les Tutsis doivent laisser le pouvoir aux Hutus, mais où l'on se tue comme on ne s'est jamais tué. Le génocide rampant en continu. Problème dans toute cette partie de l'Afrique. Et nous voyons bien que tout ce continent est un continent en phase d'explosion. Et partout, les problèmes sont politiques. Ils sont ethnico-politiques. À tous ces problèmes, à tous ces pays cités, correspond une explication politique, non pas économique. Et il est bien évident que toutes ces guerres qui se déroulent ne sont pas des guerres sociales, ce ne sont pas des guerres sanitaires, ce ne sont pas des guerres économiques, ce sont des guerres de redéfinition des rapports de force politiques. Voilà cette réalité africaine. Alors Victoria, je crois que nous avons de nombreuses questions d'auditeurs. Des remarques.
Au sujet du Tchad, merci Monsieur Kylian, nous dit cet auditeur. Et cet autre, vous parlez du pétrole du Tchad, mais comment ce pétrole pourra-t-il être exporté?
Oui, par le Cameroun. Par le Cameroun, je vois le pipeline du Cameroun.
Que pensez-vous des thèses de Pierre Chaunu qui prétendent que les prévisions démographiques concernant l'Afrique sont totalement exagérées?
Monsieur Pierre Chaunu, le grand ami de Monsieur Vidal-Naquet, qu'il s'intéresse à la Révolution française, c'est sa question, qu'il ne s'intéresse pas à l'Afrique, il ne connaît rien à l'Afrique.
Qu'en est-il des populations de Noirs américains réimplantées en 1821 par des Américains philanthropes pour créer une démocratie et qui, si je me souviens bien, ont provoqué vers 1980 une des plus effroyables guerres civiles de l'Afrique?
Alors, cher auditeur, je ne vais pas vous répondre. C'est une question très importante. Et je me permets, en toute modestie, de vous renvoyer à mon livre. Je dis un chapitre entier qui est consacré à cette question dans mon livre « Contre la mort programmée du continent noir, God bless Africa ». J'ai un chapitre entier dans lequel je traite cette question. Mais là, je ne peux pas, en quelques minutes, vous en... Il faudrait faire une émission sur ce sujet.
Avez-vous entendu parler des ouvrages de M. Pierre Fontaine sur le pétrole en Afrique? Et si oui, qu'en pensez-vous?
Ça date de 40
ans. N'en pensez rien. L'Afrique ne peut pas s'en sortir car les peuples qui y vivent sont dans la préhistoire et y resteront ad vitam aeternam.
Non, non, non. Je ne suis pas d'accord du tout. L'Afrique n'est pas dans la préhistoire. Dire que l'Afrique est dans la préhistoire, cela veut dire dans la préhistoire par rapport à quoi? Par rapport à notre histoire, c'est un raisonnement d'universaliste. Ce n'est pas le raisonnement qui est le mien. Je ne considère pas que l'Afrique soit dans la préhistoire. Je suis un disciple du maréchal Lyautey et je dis que les Africains sont autres. Ils sont autres, ils ont donc leur autre logique de pensée, et il faut être universaliste pour dire que les Africains sont à tel niveau. Ça veut dire qu'ils sont à un niveau de classement, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs. Non. Léon Blum disait que les Africains étaient inférieurs. Moi, je ne considère pas qu'ils soient inférieurs. Ils sont autres. Et étant autres, les principes politiques qui sont les nôtres ne sont pas forcément adaptés à eux. C'est le combat des universalistes et des enracinés. C'est tout simplement cela.
C'est logique pour les croyants au progrès.
Pour les croyants au
mythe
du progrès.
Majuscule, ouais.
Voilà. Nous en avons suffisamment parlé ici. N'est-ce pas, Dominique? Cette réalité-là. Pour moi, l'Afrique n'est pas dans la préhistoire. Certainement pas.
Et après les auditeurs, les auditrices, je suis très heureuse que Bernard Lugan fustige les dirigeants français qui jouent les prudes et laissent les autres nations distribuer leur bakchiche.
Oui, tout à fait.
Et cet autre, tous les mois, ça c'est une fan, tous les mois j'écoute à genoux les émissions de Bernard Lugan.
Non, c'est pas...
J'ai découvert ma France sous-développée lorsque je suis rentrée après plusieurs années en Afrique. La France va rejoindre l'Afrique dans le sous-développement. Les dirigeants français veulent faire mourir la France.
Il est évident que le sous-développement est en train de gagner ce beau pays de France. Et nous voyons ainsi un phénomène qui est très clair, qui est un phénomène de tiers-mondisation avec le départ des élites. Les élites françaises, qu'il s'agisse des élites économiques ou des élites intellectuelles, qui partent s'employer ailleurs parce que en France les pesanteurs sont telles que pour certains jeunes entreprenants dans divers domaines, il n'y a plus de possibilités. Et les systèmes d'imposition sont également écrasants. Donc une tiers-mondisation, parce que d'un côté, nous laissons partir nos élites intellectuelles qui vont enrichir des pays étrangers, et d'autre part, nous importons des sous-qualifiés qui viennent d'Afrique. Donc la perte est totale, car le gain qui vient du tiers-monde. Et donc nous avons là, véritablement, et cette auditrice a raison, une évolution vers la tiers-mondisation de ce beau pays de France. Victoria.
Pouvez-vous, question pratique, pouvez-vous redonner les coordonnées du livre de Bernard Lugan?
Oui, Contre la mort programmée du continent noir, avec en surtitre God Bless Africa, aux éditions Carnot. Le livre se trouve dans toutes les librairies, et si vous le voulez dédicacer, bien vous le commandez à l'Afrique réelle. Nous enverrons le catalogue et la boîte postale numéro 603-140 à Charroux, même adresse que pour la revue d'ailleurs. Nous pouvons préciser à ce sujet que l'abonnement de l'année est de 58 € pour ces quatre numéros, car c'est une revue trimestrielle. Boîte postale numéro 603-140 à Charroux, donc dans l'Allier. D'autres questions d'auditeurs sur l'Afrique avant de passer à la deuxième partie de l'émission?
Avez-vous été invité sur Africa numéro 1 et sur RF1?
RFI,
oui.
Oui, deux fois, et j'ai été censuré. sur RFI, comme sur France Culture d'ailleurs, et sur Africa numéro 1, j'ai été invité, oui, il y a quelques années, ça remonte déjà à quelques années, mais non, je ne suis pas tellement invité sur les médias nationaux,
officiels
nationaux.
Qu'est devenu le royaume de Foutat-Jallon?
Ah oui, non, oui, d'accord. Bon, le Foutat-Jallon, oui, c'est le grand problème des peuls en Guinée avec le Foutat-Jallon. Bon, nous en parlerons lorsque nous ferons une émission sur la Guinée.
Il est ridicule de parler de mort programmée de l'Afrique. On peut dire la mort programmée de l'Europe démographiquement. Quant à l'Afrique, elle envahira toute la Terre. Voilà.
Remarque. Bien. Fin des questions. Tiens, c'est bizarre. J'ai quasiment pas de les lettres d'insultes habituelles à propos de l'emploi des mots anglais. Bien.
Rare, si parfait. Vous m'avez dit de dégager.
D'accord,
mais il y en avait un seul, et encore c'était
parfait.
Triste, c'était pas insultant.
Voyez.
Monsieur Lugan raconte des... Des âneries lorsqu'il prétend que la pluie était abondante en Algérie. Je ne sais pas d'où il tient ça.
Cette année, dans le Maghreb et sur toute la partie du Maroc et de l'Afrique du Nord, les pluies ont été bonnes. Les récoltes vont être excellentes cette année. D'autre part, un auditeur décrivait en disant que je racontais n'importe quoi au point de vue chiffres. Alors, je vais citer mes chiffres, parce qu'il faut tout de même, je les invente pas, ces chiffres. Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement, COFAS, ministère de la coopération français et divers organismes des statistiques européens, donc les chiffres les plus officiels. La différence d'ailleurs qui existe entre ces chiffres est souvent une différence d'un demi-point, d'un demi-pourcent. Mais ces chiffres sont des chiffres officiels. Voilà.
Vous avez un auditeur qui a renvoyé deux fois, je le trouvais un petit peu long pour le lire, mais je vous le dis tout de même.
Bon, d'accord, oui.
Parce qu'il a envoyé deux fois, seul point de désaccord avec M. Lugan, l'argent du pétrole français en Afrique, s'il est entaché de rétro-commission sur des partis politiques en France, en tout parti, voire les raffineries, je ne sais pas lesquelles, Elf, etc. On ne peut pas, ipso facto, être consacré au bien commun, et à l'intérêt supérieur de la France et de l'Afrique. Autrement dit, je ne confonds jamais la bande des quatre et bien commun, ou Don Carleone et Dr. Schweitzer.
Oui,
surtout
mais...
s'il sert à frauder pour remporter des élections grâce aux raquettes, etc.
Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Et il est bien évident que nous sommes face à deux problèmes. D'un côté, un problème moral, à trois problèmes. Un problème de morale, un problème de justice et un problème d'intérêt national. Il est bien évident qu'au point de vue moral, c'est scandaleux. Au point de vue justice, c'est condamnable. Mais il est bien évident qu'on ne fait pas de la géopolitique et de l'investissement pétrolier avec des dames patronesses et avec les pensionnaires du couvent des oiseaux. Et il est certain que si l'on veut investir et si l'on veut avoir des zone d'exploitation pétrolière en Afrique, eh bien, il faut y mettre les moyens. Et ce n'est pas avec des grands discours moraux. C'est tout ce que je voulais dire. Et il est bien évident que s'il n'y avait pas eu les gens d'Elf dans la décennie 70 et 80, la France n'aurait pas les implantations qu'elle a aujourd'hui en Afrique pétrolière. Alors que certains, ce soit, nous verrons ce que va dire la justice, ce soit rempli les poches, eh bien, c'est un problème qui nous dépasse. Mais l'intérêt national passait par une présence française dans ces zones. C'est tout.
Et une dernière chose, ne croyez-vous pas qu'en 2001 et 2002, le PIB le plus élevé du continent africain est celui de la Libye, juste avant l'Afrique du Sud, et non l'inverse?
C'est le
résultat d'une récente statistique parue dans Jeune Afrique Intelligence.
L'intelligent, oui, mais écoutez, Jeune Afrique l'intelligent est un journal que je lis beaucoup, mais je préfère les statistiques de marchés tropicaux ou celles de la Banque mondiale. Il y a peut-être eu une évolution dans ces derniers mois, mais j'en suis resté à l'Afrique du Sud, mais c'est un point de détail.
C'est tout.
Bien. Fin de la partie africaine.
Fini, oui.
Bien. Alors nous allons faire une petite pause musicale et nous allons passer à la seconde partie de l'émission. Nous commencerons cette seconde partie de l'émission par une ou deux annonces et ensuite nous parlerons de l'histoire des débuts du fascisme italien. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan, avec bien entendu Victoria, Dominique Vénère et Philippe Conrad. Victoria, je crois que vous avez plusieurs annonces à faire.
Oui. Samedi 10 mai, de 15h à 19h, Vladimir Volkov dédicacera le contrat et Florence de Baudus, le monde de Vladimir Volkov. Mardi 13 mai, à partir de 17h, Arnaud Upinski dédicacera Enquête au cœur de la censure et donnera une conférence à 19h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Le jeudi 18 juin, à 19h30, 15e dîner débat de Radio Silence avec Monsieur Olivier Pichon, directeur de la revue Monde et Vie, qui traitera du sujet pour en finir avec 68. Ce dîner aura lieu au restaurant Le Grenadier, gare d'Austerlitz, cour des départs, salle au-dessus de la brasserie, dans le 13e, stationnement au parking de la gare. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par l'envoi d'un chèque de 22 euros de participation aux frais à La Voix du Silence, 5 rue Dufrénois, 75 116 Paris. Autre chose, le jeudi 22 mai, de 20 à 20h30, Arnaud de Chanterac donnera une conférence consacrée à l'assassinat de l'amiral Darlan du 24 décembre 1942 à la Maison des Mines, salle Pierre-Nicole, 9 rue Pierre-Nicole ou 270 rue Saint-Jacques dans le 5e, métro Port-Royal ou Luxembourg, entrée 7 euros.
Oui, à ce propos, Philippe Conrad, pouvez-vous ajouter quelques précisions concernant cette conférence ?
Il s'agit d'une conférence organisée par l'Association pour l'Histoire, après celle de Pascal Gauchon et Thierry Buron, qui ont eu lieu au même endroit au cours des mois derniers. Et Monsieur Arnaud de Chanterac, donc, nous présentera ses travaux consacrés à l'assassinat de l'amiral Darlan. Il est l'auteur d'un ouvrage qui fait autorité sur la question, et une question qui commande dans une large mesure toute l'histoire de la France au cours des années 40.
Oui, une association qui est tout à fait dynamique et que vous dirigez. Et vous devez préciser, s'il vous plaît, le lieu de rendez-vous parce que l'adresse a changé depuis quelques mois.
Voilà.
Donc, nos éditeurs...
Les réunions de la session pour l'histoire ont lieu désormais donc à la Maison des Mines, où l'on entre soit par le 9 de la rue Pierre-Nicole, soit par le 270 de la rue Saint-Jacques.
Nous redonnerons cette annonce tout à l'heure. Eh bien, nous passons maintenant à la seconde partie de l'émission qui va être construite autour du numéro 6 de la Nouvelle Revue d'Histoire, numéro de mai-juin 2003, qui vient de paraître. Alors, Dominique Vénère, c'est un véritable bonheur que d'avoir ce numéro entre les mains, d'abord par premier aspect, sa présentation qui est absolument superbe, sa mise en page qui est tout à fait séduisante, saillante, et puis le contenu tout à fait percutant, tout à fait remarquable de ces articles. Véritablement, on peut dire que sans flagornerie, on peut vraiment dire qu'en quelques numéros, vous avez trouvé la place qui manquait, la place qu'il fallait à une très grande revue d'histoire qui sorte du ronron du politiquement correct et de l'histoire officielle telle que nous la connaissons beaucoup trop dans les rayons de bibliothèque. Et véritablement, votre revue s'impose maintenant. Ça s'impose par son style, par sa progression, par son sérieux. Et ce numéro 6 est un numéro tout à fait remarquable. C'est un numéro tout à fait remarquable. Nous n'allons parler que d'une partie de ce numéro, en parlant des origines de la naissance du fascisme. Mais je voudrais tout de même regarder le chemin de fer de cette revue, le sommaire de cette revue. Si nous prenons cette revue, nous constatons que dans la rubrique découverte, nous avons des articles riches comme « Les pièges de la guerre américaine »,« Rome entre païens et chrétiens », « Anne de France, dame de Beaujeu », « Le procès Carrier », Remarquable article de Jacques Dupaquier, qui est tout à fait passionnant. Un article tout à fait remarquable de Régis Constant, qui nous parle de ce grand historien dont on parle beaucoup et souvent, à tort et à travers, Fustel de Coulanges.
Oui.
Tout à fait passionnant.
Alors, ce sont ces grands personnages, dont on connaît le nom, qui sont des sortes de mythes, mais
on a oublié ce qu'il y avait derrière, et le portrait intellectuel, le portrait tout court, qui est fait par Régis Constant, m'a paru tout à fait intéressant. Il fouille l'itinéraire qui a été celui de Fustel-Coulanges, et on apprend beaucoup de choses.
Un article tout à fait intéressant sur Wagner à Venise. Un article également sur Salvador Dali, la lucidité du fou.
Oui.
Un article
très drôle.
Très drôle.
Très drôle, mais on apprend des choses.
Tout à fait. Et bien entendu, l'actualité des livres historiques. Et bien entendu, le débat dont nous avons parlé tout à l'heure, le débat avec le professeur Debray. Et au début de ce numéro, au début de ce sommaire, nous avons un portrait qui est tout à fait intéressant. Et dans ce numéro, deux entretiens importants sont publiés. Deux entretiens importants, et ces entretiens qui retiennent tout à fait l'attention. L'un avec Ernst Nolte et l'autre avec Emilio Gentile. Alors, pourriez-vous nous dire qui sont ces deux hommes, nous en dire davantage et nous présenter un peu ces deux hommes? Certains de nos auditeurs sont déjà parfaitement au courant, mais pourriez-vous revenir sur ces personnalités?
Oui, vous savez, Bernard Lugan, que dans chaque numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, nous présentons le portrait d'un grand historien actuel. Nous le faisons sous la forme d'un entretien. Le hasard a voulu que, dans ce numéro, le portrait du grand historien soit celui de Ernst Nolte, éminent universitaire allemand, et le sujet qu'il a abondamment traité dans toute son œuvre est en rapport avec notre dossier, c'est-à-dire la naissance du fascisme. À cette particularité près, que Ernst Nolte a traité autrefois du fascisme italien, je vais y revenir tout de suite, mais l'essentiel de son travail, notamment au cours des dernières années, a porté sur l'histoire du national-socialisme allemand, sujet que nous n'abordons pas dans notre dossier. Alors, en deux mots, qui est Ernst Nolte? Universitaire allemand, dont la formation est double, puisque sa première formation est philosophique et ensuite il a bifurqué vers l'histoire. C'est intéressant parce que il aborde les sujets historiques avec une ampleur que tous les historiens n'ont pas nécessairement en raison de ce regard philosophique. Il a été dans sa prime jeunesse l'élève de Heidegger, entre autres. Ernst Nolte s'était fait connaître par la publication en Allemagne, en 1963, ouvrage traduit en France en 1970, de trois volumes, qui étaient réunis sous le titre général « Le fascisme dans son époque ». Ces trois volumes étaient consacrés, le volume 1 à l'action française, je vais y revenir tout de suite, le volume 2 au fascisme italien, et le volume 3 au national-socialisme allemand. Alors, le fait d'avoir inclus l'action française dans l'histoire du fascisme, évidemment, prêtait à contestation.
Et très largement légitime.
Et naturellement, la contestation est légitime. Et dans l'entretien que nous avons réuni, c'est une des questions que nous avons bien entendu posées à Ernst Nolte. Il y répond. Les lecteurs pourront se reporter à sa réponse.
Il répond d'une façon qui pour moi n'est pas totalement satisfaisante.
C'est une réponse de philosophe, au moins autant qu'une réponse d'historien. Il faut dire que Ernst Nolte est avant tout, pas exclusivement, mais il est avant tout historien des idées. Donc il a naturellement tendance à privilégier l'aspect idéologique ou philosophique de grands phénomènes historiques tels le fascisme. Il n'ignore pas les aspects événementiels, loin de là. Mais son inclusion de l'action française au sein du phénomène général du fascisme en Europe, qui prête tout à fait à contestation, s'explique par cette approche de l'histoire des idées. Mais nous ne développerons pas ce point-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage publié donc en 1963 en Allemagne traduit en France en 1970, avait été accueilli avec beaucoup de faveur. Il avait été célébré à l'époque partout comme novateur, et en effet il apportait beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Moi j'avais lu il y a très longtemps, vraisemblablement à l'époque de la publication, j'ai les ouvrages originaux, j'avais lu donc il y a très longtemps les trois volumes. Et en préparant ce dossier sur la naissance du fascisme italien, je me suis évidemment reporté attentivement au volume numéro 2 qui était consacré au fascisme italien. Et j'ai constaté qu'il apportait beaucoup de choses. Alors, lui, Ernst Nolte, qui avait été accueilli très favorablement en 63-70, quelques années plus tard, précisément à partir de 1986, à la suite d'une prise de position nouvelle et d'une interprétation nouvelle dont nous allons reparler dans un instant, sur le national-socialisme allemand, tout à coup, il va être diabolisé. Lui qui jusque-là était considéré comme le spécialiste mondial du fascisme en général, qui était accepté, pour parler simple, par le politiquement correct, tout à coup va être extrêmement critiqué. Alors, je lui ai posé la question en le rencontrant, qui avait changé ? Est-ce que ce sont vos interlocuteurs ou est-ce vous qui avez changé ? Et sa réponse, les auditeurs le retrouveront dans le numéro, sa réponse en substance a été dire « Non, je n'ai pas changé, j'ai toujours condamné le national-socialisme, je le condamne toujours, mais j'ai découvert quelque chose de neuf, c'est ce qu'il appelle le noyau rationnel de l'hitlérisme et notamment de l'antisémitisme, qu'il explique par une réaction à l'horreur qui était ressenti en Allemagne dans les années 20, l'horreur du bolchevisme russe et de la révolution russe. Phénomène qui était ressenti directement en Allemagne, puisque l'Allemagne était aux premières loges, et parce qu'il y avait en Allemagne énormément de réfugiés, notamment des Baltes ou des Russes, qui révélaient ce qu'était la révolution bolchevique et les horreurs qui étaient celles de la révolution bolchevique. Alors, il a bâti toute son interprétation du noyau rationnel sur ce point, donc réaction, horreur par rapport au bolchevisme.
Donc un entretien tout à fait important. Après la rupture technique, nous avons une coupure technique que nous devons respecter à 7h30. Après cette coupure technique, vous nous présenterez rapidement Emilio Gentile. Et ensuite, nous aborderons directement le thème principal de cette seconde partie de l'émission. Donc je rends le micro à la régie.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h pour les soirées musicales, séries de jazz, les musiques de films et à 23h le concerto pour piano d'Elikoff. Tout cela ce soir à partir de 21h et puis tout de suite la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Très bonne soirée, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Thank you.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 7 mai 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan avec Victoria, Dominique Vénère et Philippe Conrad. Alors, avant la coupure technique de 7h30, Dominique, vous nous présentiez le sommaire du numéro 6 de la nouvelle revue d'histoire qui vient de paraître, le numéro de mai-juin 2003. Et vous nous parliez de ces entretiens importants accordés à la revue par des hommes qui marquent l'histoire contemporaine. Et vous nous parliez d'Ernst Nolte. Parlez-nous maintenant d'Emilio Gentile.
Oui, Emilio Gentile, c'est le deuxième entretien recueilli dans ce dossier. Emilio Gentile est aujourd'hui le spécialiste italien numéro un de l'histoire du fascisme. Depuis la disparition de Renzo De Felice, disparition récente, c'est lui qui est considéré comme le spécialiste. Ils étaient proches l'un de l'autre. Parmi les questions d'ailleurs que nous lui avons posées, nous lui avons demandé d'évoquer l'itinéraire qui était celui de Renzo De Felice, qui est intéressant puisque dans sa jeunesse, Renzo De Felice était communiste. Et il a consacré, chacun le sait, toute sa carrière universitaire à l'étude principalement de Mussolini. C'est le biographe de Mussolini. Et par la force des choses, en étudiant l'itinéraire de façon excessivement détaillée de Mussolini, il a été évidemment conduit à étudier l'ensemble du phénomène fasciste, tout à la fois la naissance, son développement, le régime, enfin tous les aspects très nombreux. Or, Renzo De Felice, donc communiste dans sa jeunesse, au fil du temps et au fil de sa recherche, d'abord s'est dépouillé ou s'est libéré des interprétations marxistes qui étaient les siennes, et il en est venu à des interprétations beaucoup plus libres, distancées, qui font d'ailleurs aujourd'hui tout à fait autorité.
Donc Emilio, qui s'intègre parfaitement. Au cadre du...
Alors deux mots quand même supplémentaires sur Emilio Gentile, qui a développé une thèse qui est tout à fait intéressante sur le fascisme italien. C'est quelqu'un qui s'était intéressé à ce qu'il appelle la sacralisation de la politique, qui est un vrai phénomène du XXe siècle, incontestablement, qui est tout à la fois consécutif à une perte d'influence des religions traditionnelles, au phénomène de l'émergence des masses dans la politique, masses souvent déchristianisées, qui avaient perdu le contact donc avec les religions traditionnelles et qui vont retrouver pendant un certain temps, en tout cas, que ce soit par l'intermédiaire du communisme ou par l'intermédiaire du fascisme national-socialisme allemand et autres phénomènes, qui vont retrouver une forme de religion politique. Alors, son analyse est tout à fait, de ce point de vue, est tout à fait intéressante. Il a consacré à ce sujet-là notamment un livre qui a été traduit en français sous le titre « La Révolution fasciste ». Dont les observations sont tout à fait intéressantes, et il les résume dans cet entretien. Par ailleurs, dans l'ensemble du dossier que nous avons établi, nous avons tenu compte de cette observation qui permet de comprendre de l'intérieur un aspect bien spécifique du fascisme, et notamment du fascisme italien.
Oui, qui nous conduit directement au cœur du sujet, voilà. et du dossier que la Nouvelle Revue d'Histoire consacre non pas au fascisme, mais à la naissance du fascisme. Alors, ma première question, Dominique Henner, est la suivante. Pourquoi avez-vous intitulé ce dossier, pourquoi avez-vous traité dans ce dossier la naissance du fascisme et non pas le fascisme? Pourquoi vous êtes-vous limité précisément à cette période?
Eh bien, parce que, d'une façon générale, la naissance des grands phénomènes historiques est mal étudiée et mal connue. Et je suis personnellement convaincu que les grands phénomènes historiques s'expliquent d'abord par leurs origines, par les commencements. Pour des raisons qui m'ont toujours paru curieuses, ces commencements sont généralement peu étudiés. Et alors pourtant, Aristote avait dit que pour comprendre un phénomène, il faut le prendre à sa naissance. Il n'est pas le seul à avoir dit ça. Cela paraît évident. Peut-être par, je ne sais quoi, des facilités, parce que on préfère prendre les phénomènes dans leur expansion au moment où ils jouent leur rôle principal dans l'histoire. Bref, les commencements sont mal connus. Et cela paraissait donc intéressant de l'étudier. Mais c'est intéressant pour une deuxième raison, que l'on découvre au fil de ce dossier. Le fascisme italien naît dans des conditions bien particulières, c'est-à-dire dans une certaine Italie, bien entendu, au lendemain de la Première Guerre mondiale, nous allons y revenir tout à l'heure, mais dans un climat intellectuel particulier. Le climat intellectuel des années qui précèdent la Première Guerre mondiale et qui vont suivre immédiatement la Première Guerre mondiale, partout en Europe, ces années-là sont des années de rupture. Sont des années où l'on remet en cause les interprétations antérieures. Et en Italie, c'est peut-être plus fort que, je ne dirais pas partout ailleurs, mais plus fort qu'en France, peut-être. À certains égards, peut-être plus fort qu'en Allemagne. Mais c'est un phénomène que nous connaissons assez mal, parce que pour des raisons de contact culturel, d'une façon générale, on connaît assez mal l'histoire intellectuelle de l'Italie de cette période. On connaît mieux en France l'histoire équivalente de l'Allemagne. Alors, ça tient certainement aux relations historiques conflictuelle, à la fois conflictuelle et passionnelle entre la France et l'Allemagne, qui sont plus passionnelles que les relations entre l'Italie et la France. Ça, c'est une raison. Je pense qu'il y a une deuxième raison, qui est d'ordre mythico-littéraire. Cette période des années 20, des années 1919-1920, grande période de turbulence, en Allemagne a été illustrée par de grands écrivains qui ont été traduits et qui ont trouvé un écho très fort en France. Je pense à deux écrivains, je pense à Ernst von Salomon, l'auteur des Réprouvés, et je pense à Hans Junger. Il n'y a pas l'équivalent italien. On ne trouve pas. Il y a de grands écrivains italiens, mais D'Annunzio, par exemple, qui joue un rôle très important dans toute cette période. D'Annunzio n'est pas ressenti en France, pas du tout, comme un équivalent de Ernst von Salomon ou Junger. Ça tient à 36 raisons, ça tient à la différence, à leur différence, ça tient à un style qui aujourd'hui, chez D'Annunzio, a quelque peu vieilli, ce qui fait que la lecture de D'Annunzio aujourd'hui n'est pas très facile et ne parle pas à notre imagination, alors que nous pouvons lire Junger, qui est lu d'ailleurs en France abondamment, où on peut lire Ernst von Salomon avec comme un auteur d'aujourd'hui et qui apporte dans son style même des satisfactions littéraires et intellectuelles que D'Annunzio n'apporterait plus aujourd'hui. Alors tout ça entre certainement en ligne de compte. Bref, ce que nous avons voulu, parmi bien d'autres sujets, c'est explorer cette période d'effervescence intellectuelle qui nous intéresse, je dois dire, particulièrement. Bon, je me méfie des comparaisons historiques. L'époque que nous vivons n'a strictement rien à voir avec celle des années 1900-1920. N'a rien à voir, mais elle a à voir quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu dans ces années-là, partout en Europe, mais notamment en Italie, une remise en cause de tous les schémas, de toutes les habitudes de pensée. C'est le résultat d'une évolution intellectuelle, c'est aussi le résultat des événements eux-mêmes. Et quand nous voyons, si nous regardons l'époque que nous vivons, en ce moment, nous vivons, sans le savoir, une époque de rupture, dont les effets ne se font pas encore sentir. Les effets se feront sentir dans les années qui viennent. Aujourd'hui, les effets ne se font pas sentir. Mais on voit, si l'on regarde attentivement les choses, comme nous, historiens, c'est-à-dire ceux qui regardons l'avenir et non pas le passé, comme nous pouvons voir les choses, on perçoit bien à quel point tous les schémas intellectuels sur lesquels le monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, tous ces schémas intellectuels sont brisés et disparaissent. Eh bien, il s'était produit quelque chose d'analogue, très fort, dans ces années 1900-1920. Et alors, sans pousser les comparaisons, car encore une fois, ce sont des situations qui sont tout à fait différentes, je trouve qu'il est très intéressant de se reporter à une période où l'on peut trouver certaines analogies, et notamment où des contemporains ont vécu de leur vivant, tout jeune, de grandes ruptures.
Oui, merci Dominique Venner. Alors, je vais me tourner vers Philippe Conrad, et vous avez bien laissé entendre, Dominique Venner, que l'évolution historique de la France, de l'Italie, n'ont pas été identiques à cette époque. Alors, c'est précisément, je me tourne vers Philippe Conrad, et je lui pose cette question. En quoi l'histoire de l'Italie, en quoi l'histoire du nationalisme italien peuvent-elles être ces évolutions différentes de ce que nous avons connu en France ou en Allemagne, puisque Dominique Venner a très clairement abordé la question allemande.
Oui, alors Dominique a insisté à juste titre sur l'importance de la formidable rupture qu'a représentée la Première Guerre mondiale, mais on ne peut pas saisir véritablement la nature du fascisme si on ne remonte pas en amont, comme toujours, sur la longue durée, sur ce 19e siècle italien, généralement peu connu en France, il faut bien le reconnaître, depuis qu'on a renoncé à l'histoire traditionnelle que l'on enseignait jadis avec un chapitre important sur l'unité italienne, c'est quelque chose d'extrêmement lointain, d'extrêmement étranger maintenant.
Et pourtant,
il faut refaire un petit peu le film de cette histoire au cours du 19e siècle pour arriver justement à ce qui va se passer au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler que l'Italie d'abord est une nation jeune, très récente, Charente dans son unité, qui n'existe pas avant le milieu du 19e. Hein. En 1815, les hommes du Congrès de Vienne ont maintenu sa division en sept États. Je rappelle rapidement à quoi correspond la géographie politique de l'Italie à l'époque. Un royaume des deux Siciles, un royaume de Naples au sud, les États de l'Église au centre, trois grands duchés sous contrôle autrichien, la Toscane par Modène, le royaume lombard-vénitien qui est rattaché à titre personnel à l'Empire d'Autriche, et enfin la Savoie, la maison de Savoie qui règne dans le petit royaume de Piémont-Sardaigne. Cette Italie sortie du Congrès de Vienne, cette Italie qui s'inscrit donc dans l'ordre rétabli après la formidable tourmente révolutionnaire et napoléonienne, elle va être secouée d'un certain nombre de soubresauts à répétition au cours du XIXe siècle. On verra les tentatives révolutionnaires de 1820, notamment à Naples. On verra les tentatives conduites en 1831 dans les États de l'Église ou à Modène. On verra surtout le formidable mouvement correspondant au printemps des peuples de 1848. Et alors là, l'affaire prend une ampleur considérable. Le petit royaume donc de Piémont-Sardaigne prend la tête d'une sorte de croisade de libération nationale de l'Italie contre l'Autriche. La révolution gagne l'ensemble de la péninsule, mais c'est un échec. Le royaume de Piémont-Sardaigne isolé, on se souvient la réponse de Charles Albert à Lamartine, Italia Faradace, l'Italie sera toute seule, on n'avait pas besoin de l'aide des Français qui pouvaient être éventuellement disposés à l'apporter.
Non, pas l'Italie sera toute seule, l'Italie se fera toute seule.
Oui, c'est ça. Et au bout du compte, se termine les choses, ce sont les défaites de Custoza et de Novare, l'ordre ancien est rétabli par Windischgrätz à Prague, par Radetzky à Milan. L'affaire aboutit à un échec et à une stabilisation qui semble condamner pour longtemps les espérances d'unité italienne. L'Italie, en effet, à l'époque, est animée par les deux grands courants qui marquent ce premier 19e siècle, à la fois la contestation libérale, la revendication libérale face à des pouvoirs autoritaires visant à maintenir des régimes autoritaires monarchiques de droit divin, et puis d'autre part la contestation nationale, puisque en Italie comme en Allemagne d'ailleurs, et en contre-coup du formidable défi qu'avait représenté la Révolution française et puis l'expansion française en Europe, une volonté d'unité nationale depuis les Alpes jusqu'à la Sicile. Les choses vont changer, nous le savons, en 1859, quand l'alliance de la France avec le petit royaume de Piémont-Sardaigne va permettre la défaite de l'Autriche à Solferino et à Magenta, et cette défaite qui débouche sur un début d'unité avec l'appui donc de Napoléon III, mais les choses s'emballent, vont plus vite que prévu, puisque Garibaldi, à la tête de ses chemises rouges, va débarquer en Sicile avec son expédition des 10 000, et puis va libérer en quelque sorte l'Italie du royaume de Naples, l'Italie du Sud, pour la rattacher au royaume de Piémont, et on va voir se constituer à l'époque le royaume d'Italie, mais dans des conditions un peu particulières, puisque ce royaume d'Italie n'a pas encore totalement terminé l'œuvre d'unité, dans la mesure où le pape Pie IX à l'époque conserve donc les états de l'Église sous la protection de la France. Déjà en 1849, c'est une intervention française qui a mis un terme à la République romaine qui avait été proclamée par Mazzini et Garibaldi et qui avait conduit le pape à s'enfuir à Gaète dans le royaume de Naples. Eh bien, jusqu'en 1870 tout du moins, ce sont les troupes françaises, c'est l'alliance française qui permet à la papauté de conserver des territoires. Et quand la France est vaincue à Sedan le 1er septembre 1870, eh bien, le royaume d'Italie va compléter le rassemblement des terres italiennes. Quelques années plus tôt, les Italiens avaient déjà récupéré Venise à la faveur de la guerre austro-prussienne en 66. Eh bien, en septembre 70, ils vont s'emparer. Et ils vont s'emparer des territoires du pape, obligés de se replier sur la cité du Vatican, où la loi des garanties votée par le Parlement italien au début 71 lui accorde une souveraineté évidemment désormais extrêmement réduite, situation que le pape de l'époque, Pie IX, et ses successeurs Léon XIII et Pie X et Benoît XV et Pie XI pendant un temps refuseront d'accepter jusqu'aux accords du Latran qui régleront la question en 1929. Alors cette Italie, elle a fait son unité en 1870. Les espérances d'un certain nombre de ses penseurs, déjà le philosophe napolitain Vico au 18e, plus tard Leopardi, plus tard l'abbé Gioberti, qui rêvait d'une confédération italienne sous la présidence du
du pape, ses espérances d'unité sont réalisées, mais il faut bien constater qu'en 1870, comme le disait le grand penseur de l'époque Massimo D'Azeglio, l'Italie était faite, mais l'unité de l'Italie était faite en termes territoriaux, en termes politiques, mais pas l'unité des Italiens. Et cette jeune nation, elle va connaître des débuts difficiles pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons politiques. Les consignes de boycott données par la papauté vont dans une large mesure fausser complètement le jeu politique dans cette Italie parlementaire. Il y a 70% d'abstention lors des élections. C'est le slogan « né letti, né lettori », pas d'élus, pas d'électeurs. Et ça va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale, cette posture de la papauté. Donc une fragilité politique, des contrastes économiques extrêmement difficiles à assumer entre un Nord qui se développe, qui appartient déjà à l'Europe industrielle, et un Sud qui reste complètement arriéré, des problèmes sociaux très lourds, avec dans beaucoup de régions une paysannerie microfondière extrêmement pauvre en Italie centrale, à l'inverse d'un prolétariat agricole immense et misérable dans le Sud, un développement industriel qui se fait comme dans l'ensemble de l'Europe à l'époque, avec le développement rapide d'une classe ouvrière dont les conditions au départ sont difficiles, et l'Italie connaîtra en 1898 à Milan une semaine rouge qui sera le pendant de la Commune de Paris quelques années plus tôt, et le roi d'Italie Umberto Ier sera assassiné par un anarchiste 2 ans plus tard. Donc un pays avec des fragilités structurelles considérables pendant tous ces débuts. Alors un pays où naturellement, comme dans le reste de l'Europe à l'époque, va se développer tout un profond courant nationaliste qui va apparaître dans des secteurs de l'opinion, dans des secteurs de l'arc-en-ciel politique, parfois un petit peu surprenant. Ce sont souvent les libéraux, francs-maçons, anticléricaux qui ont été les porteurs du royaume d'Italie contre l'ordre ancien, contre la papauté aussi, qui vont être parmi les champions d'un premier nationalisme italien. C'est le cas avec Crispi, la figure la plus célèbre, Francesco Crispi, qui est un ancien compagnon de Garibaldi lors de l'expédition de Sicile, qui va se retrouver plusieurs fois premier ministre, qui est un homme de gauche, un anticlérical, un franc-maçon, et qui va se faire le champion de l'impérialisme, de l'expansion coloniale italienne. L'Italie, on le disait à l'époque, Henri Fernand collectionnait que les déserts en Érythrée ou en Somalie. Eh bien, l'Italie va tenter la conquête de l'Éthiopie avec le résultat que l'on sait. En 1896, le désastre d'Adoua, ça va être un traumatisme considérable pour l'Italie. On a parlé en Espagne en 1898 avec la guerre de Cuba d'une génération de 98. Le désastre d'Adoua de 96, quand les troupes du Négus Ménélic vont tailler en pièces la colonne Barthiai, ça va avoir pour l'opinion italienne et pour beaucoup d'Italiens un effet tout à fait comparable. Cette Italie qui voulait jouer dans la cour des grands, être une grande puissance méditerranéenne, bon, elle s'était fait devancée par la France en Tunisie, elle essayait de se rattraper dans le pays d'Afrique qui était encore à conquérir, et c'est un échec total, là où quelques bataillons ou quelques groupes même de Sénégalais, de tirailleurs sénégalais, suffisaient aux Français pour aller conquérir des immensités dans l'Afrique de l'Ouest.
Oui, mais la situation de l'Éthiopie n'était pas celle...
Bien sûr, le Négus Ménélik avait un véritable état traditionnel sous ses ordres. Alors, tout cela fait donc... Il y a là un traumatisme national considérable qui va amener toute une période de recueillement pour l'Italie d'une dizaine d'années, qui est incarnée par les gouvernements de Giolitti, qui a comme ambition que l'Italie soit la première des petites puissances, qui pense que toutes ces volontés de puissance ne correspondent pas au potentiel du pays, qui est encore trop fragile. Mais en même temps qu'il y a ce recueillement italien, on voit se développer aussi, durant ces premières années du siècle, un courant authentiquement nationaliste, qui dispose d'un argumentaire extrêmement complet, de toute une panoplie d'idées sur le plan idéologique nouvelle, qui est le nationalisme, qui va être présenté, par exemple, on a parlé tout à l'heure du poète Gabriele D'Annunzio, mais par quelqu'un comme Enrico Corradini et sa revue Il Regno, par exemple, et des gens qui vont réclamer, bien sûr, la conquête extérieure, l'empire, des colonies, qui vont insister sur le scandale que représente la formidable émigration italienne de l'époque, une énergie perdue perdu, une substance perdue pour le pays, qui vont mettre en avant cette notion de nation prolétaire à propos de l'Italie que reprendra Mussolini, nation prolétaire opposée aux nations plutocratiques nantis qui étaient la France et l'Angleterre. Et l'Italie, dans les années précédant la guerre mondiale, va obtenir quand même un succès significatif, même s'il a ses limites, à la faveur de la guerre italo-turque de 1911-1912. Les Italiens vont s'installer sur les côtes de Cyrénaïque et de Tripolitaine et entamer la conquête de la Libye. Et on voit à ce moment-là se réveiller un nationalisme puissant, avec un congrès nationaliste qui se réunit en 1910, avec des premiers députés nationalistes qui seront élus peu de temps après au Parlement italien. Donc c'est un courant qui est en train de monter avant la guerre de 1914. Et si l'Italie n'entre pas en guerre, elle proclame sa neutralité le 3 août 14, si elle est fortement divisée sur la question, parce que la plupart des socialistes, les catholiques, l'église catholique, les libéraux comme Giolitti sont hostiles à la guerre, eh bien les nationalistes, eux, sont pour la guerre, au départ, à la limite, en faveur de n'importe quel camp, pourvu qu'il y ait la guerre, parce que c'est de cette guerre, c'est de ce conflit et du chaos qu'il va engendrer, que l'Italie va pouvoir obtenir un certain nombre de choses qu'elle réclame depuis longtemps, un repartage colonial, et puis aussi la fameuse Italia Irredenta, ces terres irrédentes demeurées à l'Autriche, du Trentin, de Trieste, de l'Istrie, qui constituent un peu, pour les Italiens, leur Alsace-Lorraine. En plus, avec d'autres ambitions en direction de la côte dalmate, là où Venise était présente jadis, à Raguse ou à Zara. Et il y a donc, à cette époque-là, de grandes ambitions en matière méditerranéenne, un réveil nationaliste très puissant, qui s'inscrit aussi dans toute la mise en valeur du mythe romain, hein, de même que chez nous on exaltait Vercingétorix ou la France capétienne ou la France de l'an 2 ou la France napoléonienne, eh bien l'Italie a son mythe national de référence, évidemment c'est le passé romain, et c'est donc dans cet état d'esprit que les nationalistes italiens vont aborder au départ la première guerre mondiale.
Oui, alors Dominique Venner et Philippe Conrad, tout à l'heure, Philippe Conrad a mentionné pour la première fois, depuis le début de l'émission, nous parlons des origines du fascisme, mais pour la première fois, le nom de Mussolini a été mentionné par Philippe Conrad. Mussolini, que vous avez mentionné, dans un contexte que j'aimerais que
vous... Un parcours, oui, on peut...
J'aimerais que vous nous situiez Mussolini, précisément... Donc, puisque nous parlons des origines, que nous parlions, vous parlez des origines de Mussolini, c'est-à-dire avant la guerre.
Bien sûr. Oui, c'est un parcours évidemment tout à fait original. Hein, Benito Mussolini, il naît dans une famille modeste de Romagne, près de Forlì, en 1883. Hein, c'est un homme né la même année que Staline, si on veut un élément de comparaison. Et Mussolini naît dans une famille en qui concerne son père, très marqué à gauche. Son père est membre de la Deuxième Internationale. Et si Mussolini s'appelle Benito, c'est en l'honneur de Benito Juárez, le révolutionnaire mexicain. Donc le cadre est déjà fixé. Bon, sa mère, en revanche, elle c'est une femme pieuse, c'est une catholique. Et c'est une institutrice. Il va lui-même faire des études. Il va être instituteur. Mais c'est un garçon incontestablement brillant, mais qui, avec son diplôme d'instituteur, ne trouve pas de travail, puisqu'à l'époque, une bonne partie de l'enseignement en Italie, évidemment, était un enseignement religieux. Et alors, il va tout naturellement suivre les traces de son père et se poser rapidement comme un militant socialiste radical. Il ne veut pas faire son service militaire, et pour cette raison insoumis, il part en Suisse, ce qui sera pour lui une période formatrice importante, parce qu'il aura l'occasion d'y rencontrer beaucoup d'éléments révolutionnaires qui étaient exilés ou réfugiés. Ça sera l'occasion pour lui d'apprendre le français, l'allemand, de découvrir un certain nombre d'auteurs fondamentaux, Marx, Georges Sorel, Nietzsche par exemple, et puis ensuite à la faveur d'une amnistie, il va rentrer en Italie, faire son service militaire, et ensuite il va reprendre sa vie militante. Alors une vie militante marquée par un certain nombre d'épisodes significatifs, on le retrouve par exemple en France, du bon région de Marseille, pour essayer d'encadrer les immigrés italiens qui étaient nombreux à l'époque en Provence. Il se fait expulser de France par la police, par le ministère de l'Intérieur. On le retrouve également dans le Trentin, dans cette terre irrédente italienne qui est conservée par l'Autriche. Et ça sera une expérience très importante pour lui, parce que dans une large mesure, les gens qu'il a rencontrés à cette époque et qui sont les représentants de la revendication irrédentiste italienne dans cette région, ces gens-là, en 1914, au moment où se déclenchera la guerre, quand ils lanceront un appel à l'Italie pour qu'elle rentre en guerre aux côtés de l'entente pour les libérer de la domination autrichienne, ces gens-là, je pense notamment à l'avocat Cesare Battisti, seront pendus. Et pour Mussolini, à l'époque, ça sera un élément sans doute important pour expliquer son revirement par rapport à la guerre. Alors, il va ensuite apparaître comme un des leaders les plus dynamiques au sein d'un parti socialiste italien qui s'est constitué en 1892, qui est un parti assez radical sur le plan des prises de position. Et il va trouver, avec la fameuse guerre de Libye de 1911-1912, l'occasion de se retrouver au premier plan dans sa région de Romagne. On va avoir à Forlì une véritable insurrection qui va durer près d'une semaine, dont il est l'un des animateurs avec Pietro Nenni, ce qui lui vaudra de se retrouver en prison. Il sortira ensuite de cette prison et il aura gagné à ce moment-là, il a à peine 30 ans, il aura gagné un immense prestige au sein du Parti Socialiste Italien, et même au Congrès Socialiste qui suit cette affaire-là, eh bien il va se retrouver dans la majorité des dirigeants désormais le parti, et il va entre autres recevoir la direction, comme c'est un journaliste de talent, il va recevoir la direction du grand journal socialiste L'Avanti, dont il va multiplier les ventes par 5 très rapidement, car il a effectivement un grand talent sur ce terrain. Mais sur ces entrefaites, la guerre de 1914 arrive, les socialistes dans leur écrasante majorité prennent position contre la guerre, ce sont des socialistes radicaux, quelques-uns non, vont s'y rallier comme Bissolati par exemple, quelques personnalités, hein, mais on a une situation tout à fait différente de ce que nous avons en France, en Allemagne à cette époque, hein, l'Italie n'est pas encore en guerre, de toute manière en 14 elle n'y entrera qu'au printemps de 1915, hein. Et alors Mussolini va très vite, en quelques semaines, s'éloigner de ses camarades et dès le mois d'octobre 1914 il va changer d'attitude vis-à-vis de cette question de la guerre, il va se déclarer partisan de l'entrée en guerre aux côtés de l'entente, il va abandonner la direction de l'Avanti, créer un nouveau journal Il Popolo d'Italia dans lequel il va désormais assez isolé défendre donc ses points de vue jusqu'à ce que avec le pacte de Londres du 26 avril 1915, l'Italie ne franchisse le pas de l'entrée en guerre au prix de promesses considérables que l'on connaît, qui lui sont faites par l'entente, et promesses qui ne seront évidemment pas honorées quand interviendra en 1918-1919 ce que les Italiens appelleront la victoire mutilée. Alors, Mussolini va faire la guerre, il va être blessé assez grièvement d'ailleurs en cours d'une séance d'instruction, il y a un mortier qui va lui sauter à la figure, et puis une fois rétabli, il va continuer la lutte sur le plan de la plume, n'est-ce pas, sur le plan journalistique, notamment en 1917, qui est une période assez dure, puisque les grèves se multiplient, les grèves insurrectionnelles, l'Italie passe un très mauvais moment avec la catastrophe de Caporetto en octobre 1917, et puis finalement, eh bien, après une année pendant laquelle elle va refaire ses forces, eh bien, on sait comment, en octobre 1918, l'offensive victorieuse de Vittorio Veneto va aboutir à l'armistice de Villa Giusti près de Padoue. L'Italie apparaît à ce moment comme l'un des vainqueurs de la guerre. Mais cette victoire, eh bien, on va avoir l'occasion de l'évoquer maintenant. Elle va être surtout porteuse d'immenses déceptions.
Oui, c'est une Italie meurtrie et frustrée qui sort de la guerre, exactement. Et une Italie qui va connaître, elle aussi, l'immense mouvement de tourmente révolutionnaire qui semble emporter tous les États de l'Europe, ce grand mouvement de tourmente révolutionnaire. Et j'aimerais me tourner vers Dominique Venner, vous qui êtes un spécialiste de l'étude de ces questions, notamment par les travaux que vous avez menés sur l'étude des corps francs en Allemagne. J'aimerais que vous essayiez, si c'est possible de le faire, de dresser un parallèle, s'il est possible de dresser un parallèle, entre la situation révolutionnaire de l'Italie en 1919 et la situation révolutionnaire de l'Allemagne, dans l'Allemagne que l'on peut appeler l'Allemagne des corps francs. Est-il possible de dresser un parallèle entre ces deux situations?
Bien sûr, il y a tout à la fois des analogies et de grandes différences. Les analogies, nous allons les voir quand nous allons évoquer dans un instant les hommes qui vont être à l'origine du fascisme et qui, dans leur type humain, une partie de leur motivation, sont tout à fait semblables à ce que sont les corps francs allemands qui se lèvent à la fin de 1918 et surtout pendant toute l'année 1919 en Allemagne. Les différences sont également très importantes puisque l'Allemagne a terminé la guerre vaincue, a connu une révolution, l'abdication du Kaiser, le renversement de la monarchie, la proclamation de la République, un gouvernement provisoire social-démocrate, accompagné, assorti d'émeutes et de tentatives insurrectionnelles des Spartakistes, c'est-à-dire l'équivalent des bolcheviques pour l'Allemagne, etc. Ce qui fait que l'Allemagne connaît très très vite, très très tôt, une situation insurrectionnelle, une situation révolutionnaire que l'Italie ne connaît pas immédiatement. L'Italie va connaître cela avec un temps de retard, une grosse année de décalage par rapport à l'Allemagne. Mais à partir du moment où l'Italie va être à son tour traversée par des crises quasi insurrectionnelles, pour des raisons différentes, on va retrouver beaucoup d'analogies. Mais avant que l'Italie ne connaisse cette situation insurrectionnelle, quasi insurrectionnelle, grande émeute grave, etc., qui va susciter la levée de ce qui va donner le fascisme. Avant cela, il y a une effervescence particulière qui tient à plusieurs raisons. Essentiellement, les deux grandes conséquences de la Première Guerre mondiale que l'on trouve partout en Europe, mais dans certains pays, avec une accentuation, une dramatisation beaucoup plus forte. Les deux grandes conséquences de la Première Guerre mondiale, c'est d'une part le nombre gigantesque de jeunes hommes qui ont servi dans la guerre, qui sont passés par la forge de cette guerre et qui en sont sortis différents. Les hommes qui sortent de la guerre, qui ont entre 20 et 30 ans, ne sont plus ceux qui étaient rentrés. Ils sont autres. Ça, c'est une chose qu'habituellement on ne voit pas. Et que les historiens, je dois dire, de la période, oui, ils en tiennent compte un peu, mais pas suffisamment. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça ne joue pas pour tous. Tous les hommes qui sortent de la guerre n'ont pas été transformés fondamentalement, mais ceux qui ont été transformés fondamentalement sont nombreux. D'autre part, le poids de la guerre a été pour l'Italie, comme pour toutes les autres nations européennes, énorme. 700 000 morts, c'est quelque chose qui nous paraît inimaginable aujourd'hui, qu'on ne peut pas comprendre d'ailleurs, quand nous voyons les guerres telles que celles de l'Irak,
l'assassinat d'une population civile,
ce qu'on appelle guerre, où il y a 100 soldats américains qui sont au tapis par hasard, autant par leur propre faute que du fait de l'action adverse. Bon, ça n'a rien dit.
La seule guerre qui soit passée, c'est la bataille de Bassora. On s'est battu à Bassora, oui. Les Américains n'ont pas fait la guerre, ils ont matraqué.
Il nous est extrêmement difficile
de voir ce qu'était Verdun.
Nous, hommes de 2003, d'imaginer ce qu'a pu être cette guerre et ce que les hommes qui en sont sortis, les nations qui en sont sorties, ont pu éprouver. parmi ceux qui sortent de cette guerre, c'est-à-dire jeunes générations du front, types qui ont entre 20 et 30 ans, il y en a qui sont révoltés contre ce qu'a représenté la guerre, c'est-à-dire qui sont pacifistes et qui vont devenir des révolutionnaires par pacifisme. Ce sont ceux qui vont basculer dans le communisme, dans le bolchevisme et dans le communisme. Il faut dire aussi que parmi les troupes du futur communisme italien, il y a tous ceux qui n'ont pas participé à la guerre, qui étaient notamment les ouvriers de l'industrie, qui étaient quasiment mobilisés sur place, mais qui, eux, n'ont pas tenu les armes et qui n'ont pas éprouvé les conséquences de la guerre, mais qui étaient marqués en profondeur par un pacifisme qui, en Italie, comme Philippe Conrad l'a dit tout à l'heure, était beaucoup plus fort que dans les autres nations, notamment qu'en France ou en Allemagne. Donc, il y a deux types d'hommes, de jeunes hommes, en quelque sorte. Sans compter le marais de ceux qui ne prennent pas position et qui n'ont qu'un seul souci, c'est d'oublier les horreurs qu'ils ont pu connaître et de rentrer dans la vie civile, ce qui en soi est légitime. Mais il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui vont être tentés par la révolution bolchevique qui a commencé à la fin de 1917 en Russie et qui est un espoir formidable pour tous ceux qui rêvent d'un grand chambardement social par ce type de révolution. Et puis il y a une deuxième catégorie de jeunes hommes qui sont sortis de la guerre en estimant qu'en raison de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont fait, c'est eux qui représentent la véritable élite du pays. Ce sont des hommes qui ont un mépris total pour la classe dirigeante italienne de l'époque. Classe dirigeante soit politique, soit sociale. Et ils sont portés par une foi immense dans les capacités qui sont les leurs. Il faut dire que la classe dirigeante italienne, ou les classes dirigeantes italiennes, politiques, économiques, etc., n'avaient pas toujours brillé par ses compétences ou leurs compétences dans les années précédentes. Et ces hommes qui ont participé à la guerre, qui ont découvert dans la guerre une certaine façon d'agir expéditive, qui ont découvert la loi du clan, de la communauté, qui croient à la nation à travers la réalité de ce qui a été vécu dans les groupes de combat, qui croient que celui qui doit commander doit être le meilleur, qui croient à une aristocratie du mérite, en quelque sorte. Ils pensent que la guerre a sacralisé à travers eux une jeune aristocratie du mérite et que c'est à eux que le pouvoir devrait revenir. Et ils portent cela profondément en eux. Ça, c'est un élément capital qui va être l'une des grandes déterminations des troupes qui vont constituer le fascisme. Alors, des chiffres, par exemple. Au moment de la démobilisation, en novembre 1918, il y a 160 000 jeunes officiers de réserve qui viennent de commander, des hommes au front, qui sont sous-lieutenants ou capitaines, qui font retour à la vie civile. 160 000, c'est beaucoup. Et puis, il y a tous les autres qui n'étaient pas officiers, qui étaient sous-officiers ou hommes de troupe, et qui portent en eux un peu la même vision des choses. Donc, ce sont des milliers et des milliers d'hommes jeunes, habitués à un certain type de vie, qui ont coupé avec ce que l'on peut appeler l'esprit bourgeois. Alors, ça, c'est aussi une chose qui n'est pas prise en compte par l'historiographie habituelle, qui est terriblement marquée par les interprétations sociologico-marxistes, c'est-à-dire toujours la la détermination des engagements par rapport à la classe sociale. Alors, dans tous les livres qui sont consacrés au fascisme, y compris les plus intéressants, les auteurs ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes, on dit que... Alors, on explique. Alors, tel ou tel personnage, Dino Grandi, qui va jouer un rôle dans la naissance du fascisme, Bottai, etc., Italo Balbo, alors, ils sont décrits comment ? Ils sont décrits, alors, appartenant à la petite bourgeoisie rurale. Donnez-nous une définition, s'il vous plaît, de la petite bourgeoisie rurale. Tel autre est défini comme appartenant à la classe moyenne inférieure ou bien à la classe moyenne supérieure. Et à partir de ça, tout s'explique, n'est-ce pas ? Le fascisme est né de la réaction de la petite bourgeoisie ou des classes moyennes. C'est une blague, c'est une rigolade. Ceux qui avancent cette théorie sont des farceurs ou ce sont des gens qui n'ont pas réfléchi en tout cas à la question et qui n'ont pas étudié de façon attentive le type humain qui va participer à cette histoire. Le type humain n'a rien à voir avec l'origine sociale qui pouvait être la leur avant la guerre. Ils sortent de la guerre différents, pas en raison de leur origine sociale, mais en raison de l'épreuve de la guerre. Et ce sont des gens qui, au sortir de cette guerre, voient les choses pas avec les yeux. Ils les voient avec leurs tripes d'une façon différente. C'est d'autant plus vrai. Nous nous sommes efforcés, d'une façon limitée mais qui est intéressante, nous nous sommes efforcés de suivre à travers le temps l'itinéraire d'un certain nombre des hommes qui sont à l'origine du fascisme, du squadrisme dont nous allons parler dans un instant. Et nous les avons suivis jusqu'à pendant la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire sur 20 ans. Ce sont des gens qui vont être à l'origine du fascisme, vont l'accompagner dans son histoire, vont avoir souvent des responsabilités importantes sous le régime fasciste. Certains seront des opposants à Mussolini, d'ailleurs, et parfois de façon extrême, mais d'autres, tout en ayant parfois des réserves à l'égard de Mussolini, vont être portés par ce qui ressemble bien à un idéal. Et ils vont l'être jusqu'à l'extrême fin, c'est-à-dire notamment pendant la période de la République sociale italienne de 1943-44, où beaucoup d'entre eux qui auraient eu tout à gagner à se faire oublier, vont à ce moment-là reprendre du service, alors qu'ils savent pertinemment que la cause est entendue et que la défaite est au bout, mais ils veulent se comporter en accord avec ce qu'ils étaient dans leur jeunesse. Ce sont des gens qui sont portés par une vision profonde et qui va les accompagner jusqu'au bout. Peu importe que cette vision soit condamnable ou pas condamnable, nous ne prenons pas position sur ce plan, nous ne prenons pas position en disant ce qu'ils ont fait était bien, pas bien, etc. Ça, c'est secondaire, c'est un autre aspect des choses. Ce qui est intéressant pour le moment, c'est de déterminer le type d'homme. Or, le type d'homme qui s'engage dans cette aventure, entre guillemets, est porté par une vision des choses qui est en rupture avec leurs habitudes et les traditions sociales. Alors, les choses vont se développer progressivement avec l'histoire de l'Italie de ces années-là, mais nous allons en parler dans un instant.
Oui, alors nous allons les suivre, ces hommes, et nous allons les suivre dans deux orientations différentes, parallèles et différentes, c'est-à-dire le fascisme et le squadrisme. Et nous allons le suivre parce que dans ce dossier de la Nouvelle Revue d'Histoire, vous consacrez deux importants articles, précisément, au squadrisme et au fascisme, à cette organisation fasciste. Alors, nous allons parler du squadrisme tout à l'heure, et j'aimerais que vous commenciez par nous définir véritablement ce qu'était
le fascisme, la naissance du fascisme, afin que nos auditeurs puissent bien comprendre qu'en fait, il a été composé de deux choses, fascisme et squadrisme. Alors, pour comprendre l'un et l'autre, commencez par nous définir le fascisme. À moins que vous préfériez commencer par le squadrisme.
Non, non, c'est très bien, c'est très bien ainsi. Effectivement, il y a deux phénomènes qui vont se rejoindre, qui sont assez différents. Alors, le phénomène, le fascisme, classique, si je puis dire, a comme origine la personnalité de Mussolini, et puis de quelques autres. C'est un phénomène qui est politique. Deux mots pour accompagner ce que disait tout à l'heure Philippe Conrad, qui a décrit l'évolution de Mussolini jusqu'en 1914-15 et son engagement dans la guerre. Mussolini est également quelqu'un qui sort de la guerre différent du point de départ. Mussolini, à la veille de 1914, était la personnalité, ce qu'a dit Philippe Conrad à l'instant, était la personnalité centrale du socialisme italien. S'il y a un homme en Italie qui était capable de faire une révolution de type bolchevique, c'était Mussolini. D'ailleurs, Lénine, qui le connaissait de réputation, il n'avait pas de relation personnelle, mais il se connaissait de réputation. Lénine, après 1919, a dit aux socialistes italiens qui allaient rejoindre le communisme ou le bolchevisme, il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce que vous avez laissé partir Mussolini ?» Effectivement, c'est l'homme qui avait, tout à la fois par son tempérament, une énergie formidable, une volonté de puissance, un flair politique, une capacité de réaction à l'événement, ce qu'il a montré ultérieurement, c'est l'homme qui pouvait être le Lénine. Mais c'est, à la différence de Lénine, qui était un marxiste religieux, en quelque sorte, et qui l'est resté jusqu'au bout, Mussolini, qui a été marqué par le marxisme, n'était pas un marxiste dogmatique. C'était pas un croyant du marxisme. Mussolini était quelqu'un, oui, qui portait en lui un dynamisme révolutionnaire, c'est-à-dire que il avait une haine profonde de l'élite sociale italienne. Haine et mépris social et élite sociale et politique. Il a eu une formule quelque temps après en parlant des libéraux, en disant ces gens-là sont lâches et le système libéral est lâche et parce qu'ils sont lâches, ils n'ont pas le droit de commander et de diriger le pays, même si on greffait sur eux toutes les testicules, pardon, de tous les chimpanzés d'Afrique, on ne parviendrait pas à leur donner du courage. Alors, bon, exprimé avec cette petite formule amusante, on voit très bien ce qui pouvait animer cet homme qui n'a pas cessé, pendant toute son existence, de manifester en effet une énergie incontestable, pour le mal peut-être, ou pour je ne sais quoi, mais le fait est là. Il portait en lui une énorme énergie, énorme dynamisme, et le désir de prendre aux cheveux la situation qui allait permettre de changer les choses. Et devant la Première Guerre mondiale, alors qu'il a commencé la guerre comme tous les autres socialistes pacifistes, il a eu peu à peu le sentiment que c'était une occasion historique extraordinaire et que de la guerre pouvait sortir une révolution. Il ne savait pas très bien quelle révolution, mais oui, une révolution. Et cette révolution qu'il portait en lui eh bien, elle est devenue à la fois, elle est restée socialiste, puisque c'était un socialiste de formation, de toujours, mais elle est devenue également nationaliste. Alors, c'est un raccourci évidemment facile que de dire nationalisme, socialisme, mais le fascisme, c'est naturellement un peu ça, mais ça n'est pas que ça. Et cet homme, Mussolini, qui sort de la Première Guerre mondiale, qui a humainement, politiquement, deux caractéristiques. C'est un grand journaliste. Il a une tripe de journaliste. Il le montre, il vit la machine à écrire à la main ou le stylo à la main. Il a un rayonnement à travers son journal. Il a eu un rayonnement très important quand il dirigeait l'Avanti, qui était l'organe du Parti Socialiste. Et à partir de la création du Popolo d'Italia, il va retrouver un rayonnement qui va grossir après la guerre, après 1919. Et il a un deuxième rayonnement, c'est un tribun. Il s'exprime avec force par la parole, il sait exprimer les choses, il sait exprimer ce qui est dans l'air du temps et que ressentent les masses. Et par ailleurs, c'est un esprit politique, il le montrera. Alors qu'il sent très bien, dès le lendemain de la guerre, dès le début de 1919, il sent que l'Italie est entrée, en effet, dans une période pré-révolutionnaire. Il se dit, puisqu'il ne dirige plus le Parti Socialiste, il se dit qu'il faut créer quelque chose. Et il va rassembler ses partisans qui viennent d'horizons divers. Il y a des syndicalistes révolutionnaires en rupture avec le Parti Socialiste comme lui. Il y a d'anciens socialistes qui ont tourné au nationalisme, qui ont été les interventionnistes de 1915. Il y a tout le courant futuriste, qui est un courant intellectuel qui est très vigoureux en Italie, et qui porte en lui aussi une vision révolutionnaire, et quelques nationalistes. Voilà quel est le noyau composite que Mussolini va réunir au mois de mars 1919 pour créer ce qu'il appelle les fasci di combatti, les faisceaux de combat. Le faisceau est un terme, ça fait partie de la terminologie politique italienne qui a été utilisée abondamment déjà par Garibaldi et d'autres au XIXe siècle. Et le mot faisceau va évidemment, à travers Mussolini et cette aventure, prendre une signification nouvelle.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous êtes à l'écoute du libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Luant, et nous parlons de la naissance du fascisme italien avec Dominique Vénère. À l'occasion de la sortie du numéro 6 de la Nouvelle Revue d'Histoire, qui consacre de longues pages précisément à cette question. Alors, Dominique Vénère, avant de parler du squadrisme, voulez-vous en terminer avec la présentation du fascisme ou nous passons au deuxième point?
Oui, nous passons au deuxième point parce qu'ils vont se rejoindre.
Alors qui sont les squadristes?
Un premier dans la géographie de la nouvelle politique italienne de l'époque, il y a un premier pôle nouveau qui est représenté par Mussolini et les hommes qui ont lancé le premier fascisme. Alors, c'est un appel qui a été lancé par l'intermédiaire, évidemment, de son quotidien, le Popolo d'Italia, qui a un écho. Et un petit peu partout se constituent des faisceaux. Ça n'est pas un parti. C'est une espèce de nébuleuse. Chaque faisceau qui se constitue à Rome, Naples, Florence, Trieste, etc., sont quasi autonomes et ils suivent une orientation vague qui est définie par Mussolini dans ses éditoriaux et dans ses articles quotidiens du Popolo d'Italia. Voilà donc un premier pôle dans la nouvelle géographie politique italienne. Et puis, il y a un deuxième pôle qui va apparaître dans le courant de l'année 1919 à travers la revendication nationaliste italienne sur le port, la ville de Fiume. Les Italiens considèrent que cette ville est italienne. Lors des traités de paix sur l'intervention de Wilson, Fiume a été retiré à l'Italie, ne lui a pas été accordé. Or, Fiume a une population qui est en grande partie italienne. Fiume est occupé par des troupes alliées franco-britanniques et le poète D'Annunzio, qui a combattu glorieusement et très courageusement pendant toute la guerre, qui est l'idole de la jeunesse italienne, de la jeunesse nationaliste, dans ce nouveau nationalisme sorti de la guerre, D'Annunzio va lancer une opération extravagante et extraordinaire, avec un tempérament de condottiere qui est le sien, c'est-à-dire qu'il va lancer un appel pour la conquête ou la reconquête de Fiume. Il va réunir autour de lui des troupes et au mois de septembre 1919, traînant derrière lui un certain nombre de troupes qui se sont ralliées à lui contre les ordres du gouvernement italien, il prend le contrôle de Fiume, il occupe Fiume. Et l'aventure de Fiume, qui commence en septembre 1919, va durer plus d'un an, puisqu'elle va durer jusqu'en décembre 1920. Et elle va être, alors, médiatiquement, si je puis dire, suivie évidemment avec passion par toute l'opinion italienne, d'autant que D'Annunzio est un metteur en scène extraordinaire. C'est Malraux puissance 10. Hein. Malraux est un pâle imitateur de D'Annunzio. C'est D'Annunzio qui va créer ce qu'on va appeler le style fasciste ultérieurement, les gestes, le salut, le bras tendu, les cris, tout un décorum, les poignards à la ceinture, la couleur noire, qui était déjà celle des troupes d'assaut, les Arditi, en fait, etc. Donc ça, c'est un deuxième pôle, et qui va être un abcès de fixation nationaliste énorme. C'est-à-dire que l'affaire de Fiume et l'opération extraordinaire lancée par D'Annunzio va susciter un mouvement de passion nationaliste très fort en Italie, auquel le gouvernement en place est incapable de répondre, puisque le gouvernement en place est coincé par les traités de paix qu'il a accepté. Et de cette difficulté qui est celle du gouvernement italien, qui se trouve complètement en porte-à-faux, va ressurgir une révolte supplémentaire contre la classe dirigeante italienne. Et puis il y a un troisième phénomène qui se greffe sur tout cela. Dans le courant de l'année 1920, et précisément à partir de l'été 1920, le Parti socialiste italien, qui est important, qui penche pour une fraction importante en faveur des thèses bolcheviques, commence à se dire que, eh bien, pourquoi est-ce que l'Italie ne ferait pas ce qui a été fait en Russie en 1917 et au cours des années suivantes? Et ces dirigeants italiens, avec un manque de réalisme évident, vont lancer des grèves qui peu à peu vont devenir des grèves insurrectionnelles, ou plus exactement, ils vont épouser un mouvement de revendication sociale qui, lui, est naturel, et ils vont tenter de le transformer en un mouvement politique insurrectionnel. Ce qui va effectivement se développer dans les villes industrielles, et ce qui va se développer également dans l'ensemble de milieux agricoles très particuliers de la vallée du Pô. Et face à ce développement quasi insurrectionnel, le gouvernement italien est impuissant. Il est faible, il dispose de faibles moyens militaires, Et va se produire quelque chose, alors, qui présente des analogies, comme vous le disiez tout à l'heure, avec la situation allemande, c'est-à-dire que des responsables d'autorité localement vont parfois s'appuyer sur des anciens combattants de la guerre pour créer des espèces de groupes d'autodéfense, des sortes de milices plus ou moins camouflées pour rétablir l'ordre. Et c'est de cette façon que va naître ce qu'on appellera le squadrisme. Squadrisme vient du mot squadra, c'est-à-dire escouade, groupe de combat, en quelque sorte. Et le phénomène va se développer avec force à la fin de 1920. Pendant l'été, il y a un début de développement, et puis il va y avoir un développement énorme à partir du mois de novembre, parce que au mois de novembre 1920, à la suite d'attentats, il y a l'assassinat d'un conseiller municipal de Bologne, qui est un ancien combattant, qui est connu, mutilé de la guerre, et qui va être tué par des communistes italiens. Et cela suscite un énorme mouvement de révolte et de prise de conscience chez les anciens combattants que nous évoquions tout à l'heure, qui vont se lever un peu partout de façon quasi spontanée, prendre leurs armes, petites armes, c'est-à-dire leurs pistolets qu'ils ont ramenés de la guerre, parfois un fusil, des matraques et des bâtons divers, et ils vont se rassembler derrière les officiers qui étaient ceux de la guerre, jeunes officiers, ce sont des gens qui ont tous entre 20 et 30 ans, comme je le disais tout à l'heure, et qui vont constituer spontanément des groupes de combat, analogues à ce que sont les corps francs en Allemagne à peu près à la même époque, pour écraser ces mouvements insurrectionnels et ces émeutes ayant un caractère quasi bolchevique. Alors, il y a un exemple qui est tout à fait typique, qui est celui de Dino Grandi, qui va être l'un des grands dirigeants tout à la fois du squadrisme et du fascisme ultérieurement, et qui sera un adversaire souvent de Mussolini d'ailleurs. Bon, Dino Grandi a terminé la guerre avec le grade de capitaine, décoré très abondamment. Il est tout jeune, il a moins de 30 ans, il doit avoir 25 ou 26 ans. Il est tout jeune avocat, et au mois de septembre 1920, un beau jour, dans la campagne autour de Bologne, pour se rendre à une réunion amicale, il porte ses décorations gagnées à la guerre. Et tout d'un coup, il est environné par un groupe de communistes italiens qui lui arrache ses médailles, lui crache à la figure, le bastonne, etc. Que fait-il ? Il fonce immédiatement au petit bureau du fascio local. Et là, il dit
Alarmi, je
suis des vôtres, en avant. Il rassemble autour de lui tous ses anciens camarades et il va être à l'origine de toute la levée fasciste ou squadriste dans la région de Bologne, qui jusque-là était entièrement tenue par les Rouges. Alors, le système squadriste, dans son principe, est simple. Ce sont des gens qui ont les souvenirs de la guerre. Ils savent que les actions doivent être menées rapidement. Ils savent que dans les régions qui sont tenues par les Rouges, il n'est pas question, évidemment, de se rassembler de façon visible. Donc, ils se font signe. Ils se rassemblent venant d'une autre région. Trouvent des camions. Tout cela est très moderne. Et en camion, ils foncent dans une localité qui est tenue par les syndicats rouges. Ils arrivent sur place, ils font brûler, en général ils arrivent la nuit, ils font brûler dans les instants qui suivent le siège local du syndicat rouge. Il y a un petit peu de bagarre naturellement. Et puis ils font main basse sur les dirigeants locaux qu'ils réembarquent avec eux. Ça dure très rapidement, ça dure une heure.
Opération de commando,
et ils repartent. Et puis, au petit matin, ils lâchent à 20 km de là, ou 30 km de là, Il lâche le dirigeant syndical local. Il l'attache à un arbre. Bon, ils lui font pas grand mal. Ils lui font avaler l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, ça a un effet remarquable. C'est un laxatif extrêmement puissant.
Et rapide.
Et rapide. Ce qui fait que le responsable syndical qui est attaché à son arbre, bien, se retrouve avec un pantalon qui évidemment a changé de contenu et il a perdu à la fois la propreté de son pantalon et toute son honorabilité. Alors, on a fait de l'histoire de l'huile de ricin quelque chose d'absolument terrible, mais comparé au coup de pistolet dans la nuque utilisé par les bolcheviks à peu près à la même époque, on peut dire que c'était une méthode presque humanitaire.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Beketch, présenté ce soir par Bernard Lugan. Victoria, de nombreuses questions d'auditeurs. Oui. Pouvez-vous les lire, parce qu'il nous reste 12 minutes, les lire et ensuite nous aborderons le dernier point de cette question, c'est-à-dire la marche sur Rome.
Alors, une auditrice vous propose une définition. Le fascisme est né de l'évolution d'une fraction du marxisme et du syndicalisme révolutionnaire entre 1880 et 1914. Il est fondamentalement issu de l'extrême gauche. Un auditeur, je ne suis pas fasciste, je n'aime pas Mussolini, mais je ne suis ni communiste ni libéral et la République de Salo, j'en serai. Une auditrice, pouvez-vous nous expliquer d'où vient le mot fascisme ? Un auditeur, dans la nouvelle revue de l'histoire, vous signalez que le maréchal Balbo est mort accidentellement. Est-il exact que son avion fut abattu par la DCA italienne en Tripolitaine ?
Oui, c'est exact.
À la fin de l'an dernier, j'ai acheté... Ça, c'est un commentaire actuel. À la fin de l'an dernier, j'ai acheté dans un kiosque à journaux en Italie un calendrier 2003 où tous les mois de l'année étaient illustrés avec des photos de Mussolini. Qu'en pensez-vous dans le contexte actuel ? Dominique Vénère, peut-il nous confirmer qu'en 20 ans, jusqu'en 1942, il n'y a eu qu'une vingtaine de personnes exécutées par le gouvernement de Mussolini ?
Oui, c'est tout à fait exact. Exécution spécifiquement politique, c'est tout à fait exact.
L'usage, un commentaire sur l'huile de ricin.
Dernière, il reste 8 minutes, Victoria.
Bon, alors j'arrête.
Sur l'huile de ricin, allez-y. Sur l'huile de ricin,
l'usage de l'huile de ricin, qui est autant de matraques molles, était à la fois remarquable dans ce drame, puisqu'il introduisait une connotation comique dont les victimes ne pouvaient pas se relever. Oui, du bon usage de certaines fonctions de l'huile.
C'est ce qu'a dit Dominique Vénère. Bon, ouais. Victoria, merci. Chers auditeurs, l'émission se termine. Il faut quand même que nous abordions le dernier point, la conclusion de cette émission, c'est-à-dire le mois d'octobre 1922, puisque nous sommes aux origines du fascisme. Le mois d'octobre 1922, la marche sur Rome, la prise du pouvoir par Mussolini. Philippe Conrad, rapidement, vous avez 6 minutes. Vous avez 6.
Pour rappeler très rapidement donc le contexte politique qu'on a un petit peu ébauché. En 1919, il y a eu des élections générales qui ont vu une victoire formidable des socialistes et puis du nouveau parti démocrate chrétien. Les anciens partis ont été balayés. Les fascistes n'ont pas eu un seul député à cette occasion. Le fascisme ensuite s'est développé au cours des mois suivants et aux élections de 1921, il a eu 35 députés. Et la situation continuant à se détériorer, la présence physique du mouvement mouvement fasciste dans la rue, dans le pays, a continué à s'affirmer et à se développer. Et on en est arrivé, donc, une fois que ce mouvement s'est transformé en parti, d'ailleurs en parti national fasciste en 21, on en est arrivé en 22 à la question de savoir si le mouvement devait continuer à jouer la carte des élections, la carte parlementaire, ou est-ce qu'il devait se tourner vers le coup de force. Un coup de force qui était quelque chose d'extrêmement banal à l'époque, hein, puisque Malaparte en a fait la licence dans la technique du coup d'État, des bolcheviks à Mustafa Kemal, au putsch de Cap en Allemagne, etc. C'était un mode d'intervention dans un système politique apparemment incapable de faire face à la situation, qui était perçu comme tout à fait légitime. Et Mussolini va jouer très habilement à la veille de la marche sur Rome de 1922, elle va être décidée donc le 24 octobre, mais auparavant Mussolini a joué très habilement en multipliant les contacts avec un certain nombre de leaders de la classe politique, et puis alors qu'en même temps un certain nombre de ses compagnons, ceux qui constituaient le fameux quadrumvirat avec Balbo, De Vecchi, De Bono et Michele Bianchi, eux préparaient l'action sur un plan, je dirais, paramilitaire. Mussolini préparait le terrain sur le plan politique. Il s'agissait en fait d'obtenir du roi Victor Emmanuel III qu'il demande à Mussolini de constituer un gouvernement, qui était d'ailleurs un gouvernement de coalition, pour permettre aux fascistes de participer au pouvoir à un moment, je le rappelle, où il n'avait encore que 35 députés. Et finalement, devant une situation qui n'était plus du tout maîtrisée, eh bien, le roi Victor Emmanuel III va finir par céder, avec l'approbation d'ailleurs d'un certain nombre de hauts responsables, notamment militaires, comme le général Diaz, qui avait commandé l'armée italienne à la fin de la guerre. Et Mussolini, le 30 octobre, va être donc convoqué à Rome, et on va lui demander de constituer un gouvernement qui sera, j'y insiste, un gouvernement de coalition, c'est-à-dire que dans un premier temps, nous restons dans le cadre du régime parlementaire. C'est ce même Parlement qui va voter les pleins pouvoirs, d'ailleurs, à Mussolini peu de temps après, et ce n'est que progressivement que l'on va passer, notamment après les élections de 1924, qui verront alors là une large victoire d'une liste de coalition dans laquelle les fascistes sont dominants, ce n'est que progressivement que l'on va passer d'un régime parlementaire, donc le premier gouvernement Mussolini fait partie de ce cadre-là, à un régime autoritaire et totalitaire au cours des années suivantes.
Oui, monsieur Philippe Conrad, merci pour cette précision, cette concision. Avant de passer aux annonces, je voudrais poser une dernière question à Dominique Venner. Dernière question qui nous fait un peu déborder sur de la période. Mais comment l'Europe va-t-elle juger ce premier fascisme? Le premier fascisme que Mussolini va instaurer à partir de ses lendemains, de la marche sur Rome et au-delà. Y a-t-il, comme plus tard, l'on pourrait en avoir l'impression, cette démonisation de Mussolini et du fascisme?
Alors, le premier fascisme, jusque dans les années 1930, obtient une grande faveur un peu partout en Europe. Mussolini est considéré, naturellement, il a des adversaires, naturellement, tous ceux qui sont, enfin tout le courant communiste ou le courant socialiste d'une façon générale lui est hostile en Europe, mais en revanche il y a des secteurs très importants de l'opinion partout qui regardent avec intérêt l'expérience absolument nouvelle d'un phénomène neuf, puisque c'est d'une nouveauté absolue. Et il n'y a pas de démonisation encore de ce phénomène, puisque il est neuf, il est en train de se faire. Et certes, Mussolini et les siens utilisent, quand ils sont au pouvoir, surtout après l'affaire Matteotti, surtout après 1925, et après la mise en place de la dictature, puisque la dictature, il n'y a pas de dictature à l'origine. À l'origine, c'est un, comme le disait Philippe Conrad, c'est un gouvernement d'union nationale qui respecte la liberté de la presse, qui respecte le Parlement, etc., les élections, etc. La mise en place de la dictature se fera entre 1925 et 1927. Alors là, effectivement, il y aura disparition de la liberté de la presse, disparition de la vie parlementaire classique, etc. On entrera dans un autre système. Mais même dans cette période-là, en raison de la grande instabilité qui est celle de l'Europe de cette époque, des menaces que le communisme soviétique fait peser sur l'Europe, un peu partout, on regarde l'expérience mussolinienne avec sympathie. Et l'un des personnages connus, célèbres, qui regarde ce phénomène avec le plus de sympathie, c'est Winston Churchill. Nous avons cité dans ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire une longue déclaration de Churchill qui date de son voyage en Italie en 1927. Croyez-moi qu'elle vaut son pesant de cacahuètes aujourd'hui.
Politiquement correct.
Oui. Elle montre tout simplement que c'était un phénomène à l'époque qui était nouveau et qui intéressait en raison des solutions qu'il semblait apporter et que le système libéral, à l'époque, lui, ne semblait pas pouvoir donner.
Dominique Veyer, merci. Philippe Conrad, merci. Je donne la parole à Victoria qui a de nombreuses annonces à faire.
Alors, une dernière annonce. Samedi 10 mai, réunion publique de l'Action française. Défendons notre indépendance nationale au 6 rue Albert Delaparent, Paris 7e à 19h30. Le dimanche 11 mai, cortège traditionnel à Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc. Cortège de...
Rendez-vous 9h30.
Hommage à Jeanne d'Arc et cortège de Jeanne d'Arc.
Rendez-vous 9h30 à l'angle de la place de l'Opéra et de la rue de la Paix.
Rappelons l'adresse, s'il vous plaît, pour ce rendez-vous.
À l'angle de la place de l'Opéra et de la rue de la Paix. Rappelons la conférence d'Arnaud de Chantérac, l'assassinat de l'amiral Darlan, le jeudi 22 mai à 20h30 à la Maison des Mines, salle Pierre-Nicole, métro Port-Royal au Luxembourg, entrée 7 euros.
Une conférence organisée par l'Association pour l'Histoire.
Question à Dominique Veyer, peut-on commander des numéros déjà parus de la Nouvelle Revue d'Histoire ?
Oui, parfaitement.
Comment fait-on ?
Parfaitement, c'est très simple. On écrit à la Nouvelle Revue d'Histoire, 88 avenue des Ternes, 75 017 Paris. On commande le numéro que l'on souhaite recevoir et on joint la somme de 8 euros par numéro.
Et combien doit-on donner pour s'abonner ?
Alors,
pour six numéros,
je vous le dis tout de suite.
Abonnement annuel.
L'abonnement. C'est 32 euros pour 6 numéros.
Très bien.
Je précise que nous venons de franchir l'étape de notre première année. Nous fêtons notre premier anniversaire.
IBP,
bel anniversaire.
Et puis, redonnons donc les coordonnées du livre de Bernard Lugan, God Bless Africa, le vilain titre.
Pourquoi
le vilain titre ? Sous-titre, contre la mort programmée du continent africain, voilà le bon vrai titre, édition Carnot, écrire pour l'obtenir à Afrique Réelle, boîte postale 06 0340 Charroux. Vous pouvez vous abonner à la revue à cette même adresse, abonnement 58 euros, et vous pouvez aussi écrire pour recevoir un catalogue et éventuellement vous faire dédicacer le livre.
Oui, mais le livre se trouve également
dans toutes les bonnes librairies.
Nous en arrivons donc au terme de cette émission qui a été menée au pas de charge. Nous pourrions dire que dans ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, d'autres rubriques tout à fait importantes figurent, notamment l'actualité des livres historiques. Et je pense que vous avez une façon très originale de présenter Dominique Veyer dans votre revue ces livres qui paraissent. Et ils sont présentés de deux manières, soit une simple indication, soit des développements en fonction de l'intérêt, livre à retenir ou non. Et également deux autres rubriques qui sont tout à fait intéressantes, le courrier des lecteurs. Car les lecteurs vous écrivent,
réagissent
tout à fait
sur les numéros précédents, apporte des commentaires, des informations.
Tout à fait. Et également une rubrique actualité de l'histoire avec les grands événements, les grands problèmes, les questions, les disparitions, les publications. Et bien entendu, toujours un éditorial fait, signé par vous et qui replace le numéro dans la perspective historique et générale. Chers auditeurs, il est temps de nous séparer maintenant. La prochaine émission aura lieu dans un mois, très exactement le mercredi, mais je n'ai pas la date en tête, je n'ai pas sous les yeux. Non, mais peu importe. Je ne l'ai pas sous les yeux. Et je rends l'antenne à Victoria. Merci Victoria.
Saluez les auditeurs.
Et je salue les auditeurs. Philippe Grand va peut-être trouver la date de la prochaine émission dans la fête réelle. Mais effectivement, c'est une lacune de notre... Ah oui, quel jour ?
Alors, ça sera le mercredi 4 juin.
Le mercredi 4 juin, chers auditeurs. Bonsoir et merci au 4 juin.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 7 mai, oui, de 18 à 21h, en différé jeudi 8 mai, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.